exposé des sept âges de l'Église. Âge de l'Église de Pergame. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pergame. Pergame, ancien nom, s'est trouvé en Mysie, un district arrosé par deux rivières ainsi que par un fleuve qui lui offrait un débouché sur la mer. On la décrit comme la plus illustre cité de l'Asie. La culture y tenait le haut du pavé. Elle possédait la plus grande bibliothèque au monde après celle d'Alexandrie. Cependant, les péchés aussi occupaient une grande place. La ville s'adonnait au rite licencié du culte d'Asclépios, qu'on adorait sous la forme d'un serpent vivant qu'on gardait et qu'on nourrissait dans les temples. Dans cette belle cité avec ses bosquets irrigués, ses promenades et ses parcs publics, vivait un petit groupe de croyants consacrés qui ne se laissaient pas séduire par ses vernis de beauté et qui abhorraient le culte satanique qui remplissait la ville. L'âge. L'âge de Pergame a duré environ 300 ans, de 312 à 606 après Jésus-Christ. Le messager. En utilisant la règle que Dieu nous a donnée pour choisir le messager de chaque âge, c'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère s'est rapproché le plus de celui du premier messager, Paul, nous déclarons sans hésitation que le messager de Pergame est Martin. Martin est né en Hongrie en 315. Toutefois, il a accompli sa tâche en France ou à Tours et dans ses environs, il a rempli sa charge d'évêque. Il est mort en 399. Ce grand saint était l'oncle d'un autre merveilleux chrétien, Saint Patrick d'Irlande. À l'époque de sa conversion à Christ, Martin poursuivait une carrière de soldat. Alors qu'il était encore militaire de son état, un miracle fort remarquable se produisit. On rapporte qu'un mendiant gisait, malade, dans une rue de la ville où Martin servait. Le froid de l'hiver aurait eu raison de lui, car il était mal vêtu. Personne n'avait prêté attention à son besoin jusqu'à ce que Martin passe près de lui. Voyant le malheur du pauvre homme, Martin, qui n'a pas de vêtements de rechange, ôte son manteau et le purfond de son épée pour pouvoir couvrir l'homme frigorifié. Il s'occupe de lui de son mieux, puis continue son chemin. Cette nuit-là, le Seigneur Jésus lui apparaît dans une vision. Le voilà qui se tient là, sous l'aspect d'un mendiant, enveloppé dans la moitié du manteau de Martin. Il lui parle et lui dit, « C'est moi que Martin, qui n'est pourtant qu'un catéchumène, arrivé-tu de ses manteaux. » À partir de ce moment-là, Martin chercha à servir le Seigneur de tout son cœur. Sa vie devint une succession de miracles qui manifestaient la puissance de Dieu. Après avoir quitté l'armée et être devenu un dirigeant de l'Église, il milita activement contre l'idolâtrie. Il abattait les idoles, brisait les statues et renversait les autels. Quand, à cause de ses actions, il y a affronté les païens et leur lançant un défi tout à fait semblable à celui d'élu devant les prophètes de Baal. Il offrit de se faire attacher à un arbre du côté où celui-ci s'inclinait, de sorte que l'arbre s'écrase quand on l'abattrait, à moins que Dieu n'intervienne pour faire retomber l'arbre du côté opposé. Rusés, les païens l'attachèrent à un arbre qui poussait au flanc d'une colline. Ainsi, ils étaient sûrs que la force naturelle de la pesanteur ferait tomber l'arbre sur lui pour l'écraser. Au moment où l'arbre commença à tomber, Dieu les rabattit vers le haut, à l'encontre de toutes les lois de la nature. Les païens prirent la fuite et plusieurs d'entre eux se retrouvèrent écrasés sous l'arbre abattu. Les historiens attestent qu'à trois reprises au moins, il ressuscita les morts par la foi dans le nom de Jésus. Une fois, il priait pour un bébé mort. Comme Élisée, il s'étendit sur le bébé et pria. Le bébé revint à la vie et retrouva la santé. Une autre fois, il fut appelé pour venir en aide à un frère qu'on allait mettre à mort, à une époque de forte persécution. Quand il arriva, le pauvre homme était déjà mort. On l'avait pendu à un arbre. Son corps était sans vie et ses yeux exorbités. Mais Martin les descendit, il pria et alors l'homme revint à la vie, à la grande joie de sa famille qui les retrouva. Martin n'a jamais craint l'ennemi quel qu'il pût être. Ainsi, il affronta en personne un empereur méchant qui était responsable de la mort de nombreux saints remplis de l'esprit. Comme l'empereur ne voulait pas lui accorder une audience, Martin s'en alla voir un ami de l'empereur, un nommé Damas, cruel évêque de Rome. Mais l'évêque, qui n'était un chrétien que de nom, de la fausse vigne, ne voulut pas intercéder. Martin retourna au palais, mais on avait alors verrouillé les portes, on ne voulut pas les laisser entrer. Il se prosterna devant le Seigneur et pria pour pouvoir entrer dans le palais. Il entendit une voix qui lui disait de s'élever. Quand il le fit, il vit les portes s'ouvrir toutes seules. Il entra dans la cour, mais l'arrogant souverain ne voulut pas tourner la tête vers lui pour lui parler. Martin pria de nouveau. Soudain, un feu jaillit spontanément du siège du trône, et l'empereur mécontent se retira en hâte. Assurément, le Seigneur humilie les orgueilleux et élève les humbles. Son ardeur à servir le Seigneur était telle que le diable s'est déchaîné. Les ennemis de la vérité chargèrent des assassins de tuer Martin. Ils se glissèrent chez lui, et comme il s'apprêtait à les tuer, il se redressa prêtant la gorge à l'épée. Alors qu'il s'est lancé vers lui, la puissance de Dieu le rejeta brusquement de l'autre côté de la pièce. Saisi de crainte dans cette impressionnante atmosphère de sainteté, il se mit à ramper sur les mains et les genoux pour aller lui demander pardon d'avoir attenté à sa vie. Il arrive trop souvent, lorsque des hommes sont utilisés par les seigneurs de façon spectaculaire, qu'ils s'enflent d'orgueil. Mais ce ne fut pas le cas de Martin, qui est toujours resté l'humble serviteur de Dieu. Un soir, alors qu'il se préparait à monter en chaire, un mendiant entra dans son bureau pour lui demander des vêtements. Martin envoya le mendiant à son diacre principal. Autant, le diacre ordonna au mendiant de s'en aller. Celui-ci retourna donc voir Martin. Martin se leva, offrit sa belle soutane au mendiant et demanda au diacre de lui apporter une autre soutane, de moins bonne qualité. Ce soir-là, alors que Martin prêchait la parole, le troupeau de Dieu vit rayonner autour de lui une douce lumière blanche. Assurément, il était un grand homme, un véritable messager pour cet âge. Sans jamais rechercher autre chose que d'être agréable à Dieu, il vécut une vie d'une grande consécration. Il ne se permettait jamais de prêcher avant d'avoir prié et d'avoir atteint un niveau spirituel qui lui permette de connaître et d'apporter tous les conseils de Dieu par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Souvent, il faisait attendre les gens alors qu'il priait pour obtenir une pleine assurance. À connaître Martin et son ministère puissant, on pourrait penser que la persécution des saints avait diminué. Pas du tout. Les diables continuaient à les détruire par les moindres méchants. On les brûlait au bûcher. On les clouait sur des rodins tournés vers le sol. Et on lâchait des chiens sauvages sur eux pour que le chien déchire leur chair et leurs entrailles, laissant les victimes mourir en proie à des tortures atroces. On arrachait les bébés du ventre des mères enceintes pour les jeter aux cochons. On coupait les seins des femmes et on les forçait à rester debout, perdant leur sang par saccades au rythme du battement du cœur, jusqu'à ce qu'elles s'écroulent mortes. Et la chose était d'autant plus tragique quand on pense que ce n'était pas seulement là l'œuvre des païens, mais c'était souvent les faits des soi-disant chrétiens qui pensaient rendre service à Dieu en exterminant ces fidèles soldats de la croix qui tenaient ferme pour la parole et l'obéissance au Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Matthieu 24, 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Par des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit, Martin a réellement été confirmé comme étant le messager de cet âge. Non seulement était-il doué d'un grand ministère, mais il était lui-même fidèle pour toujours à la parole de Dieu. Il combattait l'organisation. Il résistait au péché dans les plus hautes sphères. Il était le champion de la vérité, en parole et en acte, et il vécut une vie pleine de victoires chrétiennes. Voici ce qu'un biographe écrivait de lui. Personne ne l'a jamais vu en colère, troublé, affligé ou en train de rire. Il était toujours le même. Il reflétait quelque chose d'immortel. Une sorte de joie céleste transparaissait sur son visage. Il n'avait jamais aux lèvres que Christ, jamais dans le cœur que piété, paix et pitié. Il pleurait souvent pour les péchés même de ses détracteurs qu'il attaquait avec des langues de vipères et le poison aux lèvres alors qu'il était silencieux ou absent. Beaucoup les haïssaient pour des vertus qu'eux-mêmes ne possédaient pas et qu'ils ne pouvaient pas imiter. Et hélas, ses opposants le plus déchaînés étaient des évêques. La salutation. Apocalypse chapitre 2, verset 12b. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Le message adressé à ce troisième âge de l'Église va être énoncé. La troisième scène de la présentation dramatique de Christ au milieu de son Église est sur le point d'être révélée. D'une voix semblable à une trompette, l'Esprit présente l'incomparable, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Quel contraste entre cette présentation et celle de Pilate quand il présentait l'agneau de Dieu, ironiquement vêtu de tuniques de pourpre, frappé et couronné d'épines en disant « Voici votre roi ». Maintenant, le Seigneur ressuscité se tient là, royalement vêtu et couronné de gloire. Christ, la puissance de Dieu. Dans ces mots, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, se trouve une autre révélation de la divinité. Vous vous souvenez que dans l'âge d'Éphèse, il était présenté comme le Dieu immuable. Dans l'âge de Smyrne, l'avons vu comme le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Maintenant, dans l'âge de Pergame, voici encore une révélation de sa divinité, exprimée par son lien avec l'épée aiguë, à deux tranchants, qui est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13 et 15a. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Il y a en trois qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Nous voyons maintenant quel est son lien avec la parole. Il est la parole. Voilà qui il est, la parole dans son nom. Dans Jean chapitre 1, verset 1, là où il est dit, au commencement était la parole, la racine qui est traduite par parole, c'est logos, qui veut dire la pensée, les concepts. Ces mots signifient en même temps pensée et langage. Or, une pensée exprimée, c'est une parole ou des paroles. C'est beau, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Jean dit que le concept de Dieu a été exprimé en Jésus. Et Paul dit exactement la même chose dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils, le Logos, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Dieu s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. De nouveau, dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » L'essence même de Dieu a été faite chair et a habité parmi nous. Le grand Dieu Esprit, dont aucun homme ne pouvait s'approcher, qu'aucun homme n'avait vu ou ne pouvait voir, avait maintenant sa demeure dans la chair et habité parmi les hommes, exprimant aux hommes la plénitude de Dieu. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Dieu, qui occasionnellement avait manifesté sa présence par la nuit ou la colonne de feu, qui saisissait des craintes les cœurs des hommes, c'est Dieu, dont les caractères centraux n'étaient révélés que par des paroles transmises par les prophètes, était maintenant devenu Emmanuel, Dieu avec nous, qui se faisait connaître. L'expression « faire connaître » est tirée d'une racine grecque qu'on rend souvent par le mot « exégèse », qui signifie « expliquer entièrement et rendre clair ce que la parole vivante, Jésus, a fait. Il a fait venir Dieu à nous, car il était Dieu. Il nous a révélé Dieu avec clarté si parfaite que Jean a pu dire de lui dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, logos veut dire langage, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu s'est vraiment révélé, il se manifeste dans la chair. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Or, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, nous avons noté que Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. Il était Dieu qui s'exprimait lui-même d'homme à homme. Mais il y a autre chose à remarquer dans ces versets, notamment versets 1 et 2. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Je voudrais que vous remarquiez qu'il y a une correction ici, dans la marge de votre Bible. Le mot « par » n'est pas une traduction correcte. Il faudrait dire « dans » et non « par ». Les textes corrects seraient donc « autrefois, Dieu a parlé à nos pères dans les prophètes au moyen de la parole ». 1 Samuel chapitre 3, verset 21b. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Voici qui explique parfaitement 1 Jean chapitre 5, verset 7. L'Esprit et la parole sont un. Jésus révélait le Père. La parole révélait le Père. Jésus était la parole vivante. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il est toujours cette parole vivante. Quand Jésus était sur terre, il a dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean chapitre 14, verset 10. Ici, nous voyons de façon évidente que la manifestation parfaite de Dieu dans les fils était le fait de l'Esprit qui habitait à l'intérieur et qui s'est manifesté en parole et en œuvre. C'est exactement ce que nous enseignons depuis le début. Quand l'épouse redeviendra une épouse parole, elle produira les œuvres même que Jésus produisait. La parole est Dieu. L'Esprit est Dieu. Ils sont un. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Il en était ainsi des prophètes. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui habitait en eux, et la parole venait à eux. Il en était ainsi de Jésus. Il avait en lui l'Esprit sans mesure, et la parole venait à lui. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Acte 1, 1. Jean 7, 16. Rappelez-vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu'il baptisait dans le Jourdain, la parole de Dieu, Jésus, est venue à lui. La parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l'Esprit. C'est là la preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit, « Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Or, nous savons ce qu'est la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, du 7b. Et encore dans Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, je viens de dire dans ces versets qu'il ne peut pas non plus recevoir la parole. Pourquoi? Parce que l'Esprit et la parole sont un. Et que si vous avez le Saint-Esprit, comme l'avaient les prophètes, la parole viendra à vous. Vous la recevrez. Dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici encore, nous voyons que la parole vient à cause de l'Esprit de Dieu. Et de nouveau dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, la parole, il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira, la parole, tout ce qu'il aura entendu, la parole de Dieu. Et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit qui apporte la parole des prophéties. Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n'a pas dit que la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, d'interpréter, de prophétiser ou de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait que vous vous trouverez dans la vérité. Vous vous trouveriez dans la parole de Dieu pour votre âge. La preuve consiste à recevoir cette parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors, voyez, la preuve qu'on était habité de l'Esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge, quand il mettait l'Église en ordre. Paul a dû dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation, au verset 36, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? La preuve qu'un croyant et un chrétien rempli de l'Esprit, ce n'est pas qu'il produit la vérité, la parole, mais qu'il reçoit la vérité, la parole, et qu'il la croit et qu'il y obéit. » Avez-vous remarqué dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. » Vous voyez, l'Épouse prononce la même parole que l'Esprit. Elle est une épouse parole. C'est ainsi qu'elle prouve qu'elle a l'Esprit. Dans chaque acte de l'Église, nous entendons ces mots, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. L'Esprit donne la parole. Si vous avez l'Esprit, vous entendrez la parole pour votre âge, comme ces vrais chrétiens ont accepté la parole pour leur âge. Avez-vous saisi cette dernière pensée? Je répète, chaque âge de l'Église se termine par la même exhortation, que celui, l'individu, qui a les oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. L'Esprit donne la parole. Il a la vérité pour chaque âge. Chaque âge a eu ses prophètes élus, et ce groupe d'élus a toujours entendu la parole, et il a reçu. C'est ainsi qu'ils prouvaient qu'ils avaient en eux la semence. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ont refusé la parole, Jésus, et ses paroles pour leur époque. Mais la vraie semence a reçu la parole parce qu'ils étaient de Dieu. Tous tes fils seront enseignés de Dieu, du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 54, verset 13. Jésus a dit la même chose dans Jean 6, 45. C'est d'être un avec la parole qui prouve si oui ou non vous êtes de Dieu et rempli de l'Esprit, aucun autre critère. Mais que sont les langues, l'interprétation et les autres dons? Ce sont des manifestations. Voilà ce qu'enseigne la parole. Lisez-les dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ensuite, Paul énumère ces manifestations. Maintenant, voici la très bonne question que vous avez tous hâte. Je laissais déposer. Pourquoi la manifestation n'est-elle pas une preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Puisqu'on ne peut quand même pas manifester le Saint-Esprit si l'on n'est pas réellement rempli de l'Esprit. J'aimerais bien dire que c'est vrai, parce que je n'aime pas blesser les gens ou piétiner leur doctrine. Mais je ne serais pas un véritable serviteur de Dieu si je ne vous annonçais pas tous les conseils de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Considérons un peu le cas de Balaam. Il était religieux. Il adorait Dieu. Il comprenait quelle était la bonne manière de faire les sacrifices et s'approcher des dieux. Mais il n'était pas un prophète de la vraie semence, puisqu'il a accepté le salaire de l'iniquité et comble d'infamie, qu'il a conduit le peuple de Dieu à commettre des péchés de fornication et d'idolâtrie. Et pourtant, qui oserait nier que l'Esprit de Dieu se manifestait à travers lui en donnant au monde l'un des plus beaux échantillons des prophéties tout à fait exactes? Mais il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Et puis, que pensez-vous de Caïphe, le souverain sacrificateur? La Bible a dit qu'il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait mourir. Nous savons tous qu'il n'est dit nulle part qu'il était un homme rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit, comme l'était le brave Siméon, ou encore cette sainte pleine de bonté qui s'appelait Anne. Et pourtant, il a eu une authentique manifestation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier cela. Où donc peut-on voir que les manifestations sont une preuve? Cela n'existe pas. Si vous êtes réellement rempli de l'Esprit de Dieu, vous aurez la preuve de la parole dans votre vie. Je vais vous montrer combien je ressens profondément et combien je comprends cette vérité, au moyen d'une révélation que Dieu m'a donnée. Mais je voudrais d'abord dire ceci. Beaucoup d'entre vous croient que je suis prophète. Je ne dis pas que je le suis. C'est vous qui l'avez dit. Mais vous et moi, nous savons que les visions que Dieu me donne ne manquent jamais de s'accomplir, pas une seule fois. Si quelqu'un peut prouver qu'une vision a jamais manqué de s'accomplir, je veux le savoir. Maintenant que vous m'avez suivi jusqu'ici, voici mon histoire. Il y a bien des années, la première fois que j'ai rencontré des pentecôtistes, j'assistais à une de leurs séries de réunions de vacances familiales où il y avait beaucoup de manifestations de parler en langue, d'interprétation des langues et des prophéties. Deux prédicateurs notamment pratiquaient ce genre de parler plus que tous les autres frères. J'appréciais beaucoup les réunions et j'étais vraiment intéressé par ces diverses manifestations, car elles me faisaient l'effet de quelque chose d'authentique. Comme je désirais sincèrement en apprendre le plus possible sur ces dons, je me décidai à aller en parler avec ces deux hommes. Au moyen du don de Dieu qui habite en moi, j'essayais de connaître l'esprit du premier homme, pour savoir s'il était vraiment de Dieu ou non. Après une brève conversation avec ses frères, plein d'humilité et de bonté, je sus qu'il était un chrétien authentique, intègre. C'était un vrai. L'autre jeune homme n'était pas du tout comme le premier. Il était vantard et orgueilleux. Et pendant que je lui parlais, une vision qui passait devant mes yeux me montrait qu'il était marié avec une femme blonde, mais qu'il vivait avec une brune, et qu'il avait deux enfants d'elle. Si jamais il y a eu un hypocrite, lui c'en était un. J'avoue que j'étais atterré. Comment ne l'aurais-je pas été? Il y avait là deux hommes. L'un d'eux était un vrai croyant et l'autre un imitateur impie. Et pourtant, tous les deux manifestaient les dons de l'esprit. Cette confusion m'est troublée. J'ai quitté la réunion pour chercher une réponse de Dieu. Je me rendis tout seul dans un endroit secret et là, avec ma Bible, je priais Dieu en m'entendant à lui pour la réponse. Ne sachant pas exactement quel passage lire dans les Écritures, j'ouvris la Bible au hasard et je tombai sur un passage de Matthieu. Je lus pendant un moment, puis je reposai la Bible. Peu de temps après, un vent s'égouffra dans la pièce et tourna les pages de la Bible à Hébreux chapitre 6. Je lus le chapitre et je fus particulièrement impressionné par ce verset étrange. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 9. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on y finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. J'ai fermé la Bible, je la reposai, je méditais un moment et je priais à nouveau. Je n'avais pas toujours de réponse. De nouveau, j'ouvris la Bible au hasard, mais je ne lus pas. Soudain, le vent s'engouffra de nouveau dans la pièce, et les pages s'ouvrirent encore une fois à Hébreux 6, et restèrent une fois le vent calmé. Je relus ces mots à plusieurs reprises, Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu entra dans la pièce et j'eus une vision. Dans la vision, je voyais un homme vêtu du blanc le plus pur qui s'avançait dans un champ fraîchement laboureux en semant du blé. C'était une journée ensoleillée et les semailles avaient lieu le matin. Mais tard le soir, après le départ du semeur vêtu de blanc, un homme en noir vint furtivement semer une autre semence parmi celles que l'homme en blanc avait semées. Les jours passèrent, le soleil et la pluie bénirent le sol, et un jour, le blé apparut, comme il était beau. Mais le lendemain, l'ivraie apparut. Le blé et l'ivraie poussaient ensemble. Ils avaient part à la même nourriture tirée du même sol. Ils buvaient le même soleil et la même pluie. Puis un jour, le ciel se fit d'airain, et toutes les plantes commencèrent à se flétrir et à dépérir. J'entendis le blé lever la tête et crier à Dieu en demandant de la pluie. L'ivraie, elle aussi, élevait la voix en réclamant de la pluie. Ensuite, le ciel s'obscurcit et la pluie vint. De nouveau, le blé, maintenant, en pleine force, éleva la voix et cria dans l'adoration, « Gloire au Seigneur !» Et à ma grande surprise, j'entendis aussi l'ivraie vivifiée dire en relevant la tête, « Alléluia !» Alors j'ai compris la vision et ce qu'il s'était réellement passé à ces réunions. La parabole du semeur de la semence. Hébreux chapitre 6 et la manifestation évidente des dons de l'Esprit dans un auditoire mélangé, tout devenait merveilleusement clair. Le semeur vêtu de blanc, c'était le Seigneur. Le semeur en noir, c'était le diable. Le champ, c'est le monde. Les semences, c'était des personnes, des élus et des réprouvés. Les uns et les autres avaient part à la même nourriture, à la même eau et au même soleil. Les uns comme les autres priaient. Les uns comme les autres étaient secourus par Dieu, car il fait lever son soleil et tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et même si tous avaient la même merveilleuse bénédiction, même si tous avaient la même manifestation merveilleuse, cette grande différence demeurait. Ils étaient d'une semence différente. C'est aussi la réponse à Matthieu chapitre 7, versets 21-23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus ne nie pas qu'ils aient accompli des œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes, mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Ce n'étaient pas des rétrogrades, c'était des réprouvés, mauvais et régénérés. Ils étaient la semence de Satan. Et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Non, messieurs. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes, mais ce n'est pas là la preuve que l'individu est rempli de l'Esprit, même si cet individu possède cette manifestation en abondance. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur, celui de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient, c'est biblique. Or, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame, qui n'allait venir que 200 ans après la vision de Patmos. Il savait que cet abandon les conduirait dans l'âge de ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Il se présente donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Je suis la porte. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors acquiez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit de s'interposer entre vous et la parole. Ce que je vous donne ici, la parole, est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Une pensée au passage. Comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus, n'est-ce pas? Chaque prière est faite en son nom. sans quoi il n'y a pas de réponse. Et pourtant, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5, 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant nous demandons, quelle est la volonté de Dieu? Il n'y a qu'un seul moyen de connaître sa volonté, c'est par la parole de Dieu. » Lamentations 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Voilà, si ce n'est pas dans la parole, vous ne pouvez pas obtenir. Donc, ne pouvons pas demander quelque chose qui n'est pas dans la parole. Nous ne pouvons pas adresser des requêtes ou demander quelque chose si ce n'est en son nom. Nous y revoilà. Jésus, le nom et la parole, la volonté. On ne peut pas séparer Dieu de la parole. Ils sont un. Ainsi, cette parole qu'il nous a laissée sous forme imprimée est une partie de lui. Quand vous l'acceptez par la foi dans une vie remplie de l'Esprit, il a dit que sa parole était la vie. Jean chapitre 6, verset 63b. Mais c'est exactement ce qu'il est. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Romains 8, 9b. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Il est l'Esprit, il est la vie. C'est exactement ce que la parole. C'est exactement ce que Jésus. Il est la parole. Ainsi, quand un homme né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur et qu'il la porte sur ses lèvres, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Si seulement l'Église, là-bas, dans ce troisième âge, s'en était tenue à la révélation et la parole vivante au milieu d'eux, la puissance de Dieu n'aurait pas diminué comme elle a fait dans cet âge de ténèbres. Et aujourd'hui, quand l'Église reviendra à la parole avec foi, nous pouvons dire avec assurance que la gloire de Dieu et les merveilleuses œuvres de Dieu seront de nouveau au milieu d'elle. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son Esprit me donna un message pour l'Église. Je veux vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce, d'après Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la semence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de semence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la semence originelle, parce que c'est la même semence. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre des fêtes, et elle sera la super Église, une super race, alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image, et c'est en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas la bonne semence. Elles produiront leur credo et leur dorme, mêlés à la parole. Ce croisement aboutit à un produit hybride. Le premier fils, Adam, était la parole semence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée, pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation, elle a conduit à la mort. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole semence parlée de Dieu. Et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi était tombée. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait, ou si elle douterait la parole et mourrait. Elle a douté, elle a abandonné la parole et elle est morte. D'un petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge, parce qu'elle ne connaît aucun credo ni aucun dorme fait de main d'homme. C'est par le membre et l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 5. À ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui, parce qu'elle a accepté la parole qui lui avait été donnée. Le membre et l'épouse vierge l'aimeront, et ils auront toutes ses capacités, car il est leur tête, et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien que lui ait d'abord été montré par le Père. Jean chapitre 5, verset 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici les secrets. La parole est dans l'épouse, comme elle était en Marie. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Alors, la parole est vivifiée par l'Esprit et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplit sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle le sait, car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon, comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur, et il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'Église, tout comme Paul est venu comme conducteur originel. Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec Josué. Souvenez-vous, Dieu avait fait naître Israël comme une vierge avec sa parole, mais il voulait autre chose. L'Église de ces derniers jours a fait de même. Remarquez comment Dieu n'a pas fait avancer Israël ou n'a pas laissé entrer dans le pays promis avant le moment qu'il avait prévu. Or, les gens ont peut-être pressé Josué, le conducteur, en lui disant « Le pays est à nous, allons-y, emparons-nous-en. Josué, tu es un homme fini. Tu dois avoir perdu ta commission, tu n'as plus la puissance que tu avais. Avant, Dieu te parlait, tu connaissais la volonté de Dieu et tu agissais rapidement. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » Mais Josué était un prophète envoyé de Dieu. Il connaissait les promesses de Dieu. C'est pourquoi il attendait ses promesses. Il attendait une décision claire et nette de la part de Dieu. Et une fois venu le moment d'avancer, Dieu remit toute la conduite entre les mains de Josué parce qu'il s'était tenu à la parole. Dieu pouvait faire confiance à Josué, mais pas aux autres. Ceci se reproduira en ces jours de la fin. Le même problème, le même pression. Prenez l'exemple que nous offre Moïse. Ce puissant prophète, loin de Dieu, a eu une naissance particulière. Il est né au moment prévu pour la délivrance de la semence d'Abraham de sa captivité en Égypte. Il n'est pas resté en Égypte à discuter des Écritures avec les Égyptiens ou à faire des histoires à leurs prêtres. Il est parti dans le désert jusqu'à ce que les gens soient prêts à le recevoir. Dieu a envoyé Moïse dans le désert. L'attente n'était pas due à Moïse, mais aux gens qui n'étaient pas prêts à le recevoir. Moïse pensait que les gens allaient comprendre, mais ils n'ont pas compris. Et puis, il y a Élie, à qui la parole du Seigneur est venue. Une fois qu'il eut prêché la vérité et que ce groupe de l'époque, précurseur du groupe de la Jézabel américaine, n'a pas voulu recevoir la parole. Dieu l'a appelé à quitter le terrain et il a frappé cette génération de fléaux parce qu'elle avait rejeté les prophètes et le message que Dieu avait donné. Dieu l'a envoyé dans le désert et il refusa d'en sortir, même à la demande du roi. Ceux qui ont essayé de le persuader de le faire sont morts. Mais Dieu a parlé à son prophète fidèle par une vision. Il est sorti de sa cachette et il a ramené la parole à Israël. Ensuite est venu Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le puissant prophète pour son époque. Il n'est pas allé à l'école de son père, ni à l'école des pharisiens. Il n'est allé vers aucune dénomination, mais il est allé dans le désert, là où Dieu l'appelait. Il y est resté jusqu'à ce que le Seigneur l'en fasse sortir avec le message qu'il proclamait en disant « Le Messie est proche ». Considérons maintenant l'avertissement que nous donnent les Écritures. N'est-ce pas à l'époque de Moïse que Dieu avait confirmé que Corée s'est élevé et a résisté à ses puissants prophètes? Il s'est opposé à Moïse en déclarant que lui aussi, il avait reçu de Dieu ce qu'il fallait pour pouvoir conduire le peuple et que d'autres avaient part à la révélation divine, tout comme Moïse. Il niait l'autorité de Moïse et les gens de l'époque, après avoir entendu la véritable parole et alors qu'ils savaient très bien qu'un vrai prophète est confirmé par Dieu, je dis que ces gens ont suivi Corée dans sa révolte. Corée n'était pas un prophète conforme à l'écriture, mais bon nombre d'entre eux ont pris son parti et leur chef avec eux. Comme cela ressemble aux évangélistes d'aujourd'hui avec leurs projets qui valent bien le veau d'or de Corée. Ils font bonne impression aux gens, comme Corée à l'époque a fait bonne impression. Ils ont du sang sur leur front, de l'huile sur leurs mains et des boules de feu sur l'estrade. Ils autorisent des femmes à prêcher. Ils laissent les femmes se couper les cheveux, porter des pantalons et des shorts. Et ils contournent la parole de Dieu au profit de leur propre credo et dorment. Cela montre quelle est la sémence qui est en eux. Mais ils ne sont pas tous ligués contre Moïse et n'ont pas tous abandonné la parole de Dieu. Non. Les élus sont restés avec lui. La même chose se reproduit aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui abandonnent la parole, mais quelques-uns y restent attachés. Mais rappelez-vous la parole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie doit être liée pour être brûlée. Ces églises apostates sont en train d'être liées. Elles se rapprochent de plus en plus. Elles sont prêtes pour le feu du jugement de Dieu. Mais le bon grain sera rassemblé pour le maître. Je voudrais maintenant que vous soyez bien attentifs pour voir ceci. Dieu a promis qu'au temps de la fin, Malachie 4 s'accomplirait. Il faut qu'il en soit ainsi, car c'est la parole de Dieu vivifiée par l'Esprit, prononcée par le prophète Malachie. Jésus a fait référence. Ce doit être juste avant la seconde venue de Christ. Quand Jésus viendra, toute l'écriture devra être accomplie. La dispensation des nations en sera à son dernier acte l'Église quand ce messager de Malachie viendra. Il sera absolument fidèle à la parole. Il prendra la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Il commencera par la semence du serpent et il continuera jusqu'au message de la pluie de l'arrière-saison, mais il sera rejeté par les dénominations. Il laissera forcément, comme c'était le cas à l'époque d'Akab, car l'histoire se répète. L'histoire d'Israël sous Akab est en train de se reproduire ici même en Amérique, où apparaît le prophète de Malachie. Comme Israël a quitté l'Égypte pour avoir la liberté de culte, qu'elle a expulsé les autochtones, qu'elle a formé une nation avec de grands chefs comme David et d'autres, qu'elle a ensuite mis sur le trône un Akab, avec derrière lui une Jézabel pour diriger, nous avons fait de même en Amérique. Nos ancêtres ont émigré vers ce pays pour pouvoir exercer leur culte et vivre dans la liberté. Ils ont repoussé les autochtones pour prendre le pays. De grands hommes comme Washington et Lincoln ont été élevés au pouvoir. Mais au bout d'un moment, ces hommes honorables ont été remplacés par des hommes d'une si petite envergure qu'on s'est retrouvé avec un Akab au poste de président, avec derrière lui une Jézabel pour les diriger. C'est à une époque comme celle-là que le messager annoncé par Malachie doit venir. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une démonstration des forces comme celle de la montagne des Carmel. Observez bien ceci maintenant pour le voir dans la parole. Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie la première saison et il a été rejeté par les organisations de son époque. Jésus est venu et il a eu sa démonstration de force sur la montagne de la Transfiguration. Le second précurseur de Christ semera pour la pluie de l'arrière-saison. Jésus sera la démonstration de force face aux dénominations et aux credos, car il viendra appuyer sa parole et emporter son épouse dans l'enlèvement. La première démonstration de force a été celle de la montagne du Carmel. La deuxième a été celle de la montagne de la Transfiguration. Et la troisième sera celle de la montagne de Sion. Le comportement étrange de Moïse, d'Élie et des gens qui s'est retiré, quittant les gens, en a laissé beaucoup perplexes. Ces derniers ne comprenaient pas que c'était ainsi parce que leur message avait été rejeté. Mais la semence avait été semée, la plantation était terminée, le jugement allait suivre. Ils avaient accompli leur mission en tant que signe pour les gens, c'est donc le jugement qui devait suivre. Je crois, conformément à Apocalypse 13:16, que l'épouse devrait cesser de prêcher, car la bête exigera la marque sur la main ou sur le front pour accorder l'autorisation de prêcher. Les dénominations accepteront la marque, ou alors elles seront contraintes d'arrêter de prêcher. Ensuite, l'agneau viendra chercher son épouse et jugera la grande prostituée. Or, rappelez-vous que Moïse était né pour accomplir une œuvre donnée, mais qu'il ne pouvait pas accomplir cette œuvre tant qu'il n'avait pas reçu les dons qui lui permettraient d'exécuter la tâche. Il a dû s'en aller dans le désert et y attendre. Dieu avait choisi un moment. Il fallait qu'un certain pharaon soit sur le trône. Il fallait que le peuple crie pour avoir le pain de vie avant que Dieu puisse faire revenir Moïse. C'est encore vrai à notre époque. Mais que voyons-nous à notre époque? Il y a des foules entières qui manifestent des signes, au point que nous avons une génération de chercheurs de signes qui connaissent peu sinon rien de la parole ou d'un véritable mouvement de l'Esprit de Dieu. S'ils voient du sang, de l'huile et du feu, ils sont contents. Peu importe ce que dit la parole, ils soutiendront n'importe quel signe, même des signes contraires à l'Écriture. Mais Dieu nous en avertit dans Matthieu 24. Il a dit que dans les derniers jours, les deux esprits seraient tellement proches que seul le vrai Élie ferait la différence, car il serait le seul à ne pas être séduit. Comment faire la différence entre les esprits? Mettez-les simplement à l'épreuve de la parole. S'ils ne prononcent pas cette parole, ils sont du malin. Comme le malin a séduit les deux premières épouses, il essaiera de séduire l'épouse de ces derniers jours en tentant de la pousser à s'hybrider par des credos ou tout simplement à se détourner de la parole au profit d'un signe qui fasse son affaire. Mais Dieu n'a jamais mis les signes avant la parole. Les signes suivent la parole, comme c'était le cas quand Élie a dit à la femme de lui faire d'abord un gâteau, selon la parole du Seigneur. Quand elle a fait ce que la parole avait dit, alors le signe approprié est arrivé. Venez d'abord à la parole et regardez ensuite le miracle. La parole semence reçoit l'énergie par l'esprit. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie de la parole et en nier une partie? Le véritable prophète de Dieu en ces derniers jours proclamera la parole entière. Les dénominations les haïront. Ces paroles pourront être aussi dures que celles de Jean-Baptiste, qui les traitait de vipères. Mais ceux qui sont prédestinés entendront et ils seront prêts pour l'enlèvement. La semence royale d'Abraham, avec une foi semblable à celle d'Abraham, s'accrochera à la parole avec lui, car ils sont prédestinés ensemble. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole, il sera indiqué, désigné dans la parole, Apocalypse 17. Et Dieu confirmera son ministère, il prêchera la vérité comme le faisait Élie, il sera prêt pour la démonstration des forces de la montagne de Sion. Beaucoup ne les comprendront pas, parce qu'on leur enseignait les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand ils s'opposeront à ces enseignements, ils ne croiront pas. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur la première venue crier, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !» Lui aussi s'écriera sûrement, « Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire !» Et il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même, celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. L'éloge de Christ à l'Église. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Je connais tes œuvres et je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je connais tes œuvres. Voici les mêmes mots qui sont répétés à chacun de sept messagers au sujet du peuple de Dieu de chaque âge. Comme ils sont adressés aux devines, la vraie et la fausse. Ils apportent la joie et l'allégresse au cœur de l'un des groupes, mais ils devraient frapper de terreur le cœur des autres. En effet, bien que nous soyons sauvés par grâce et non par les œuvres, le véritable salut produira des œuvres, c'est-à-dire des actions agréables à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique, qui œuvre, la justice est juste, comme lui-même est juste. Si ce verset a un sens, il signifie que ce qu'un homme fait, c'est ce qu'il est. Jacques 3, 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Romains 6, 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Où dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par les fruits, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchants, comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Or, si un homme est né de la parole, régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, 1 Pierre 1, 23, il produira la parole, les fruits, c'est-à-dire les œuvres de sa vie seront un produit conforme au type de semence de vie qui est en lui. C'est pourquoi ces œuvres seront conformes à l'Écriture. Oh, cette vérité sera une terrible accusation contre l'âge de Pergame. L'incomparable se tient là, avec à la main l'épée aiguë à deux tranchants, la parole de Dieu. Et cette parole nous jugera au dernier jour. En fait, la parole est déjà en train de juger, car elle discerne le sentiment et les pensées du cœur. Elle sépare ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Elle fait de nous des épîtres vivantes, lues et connues de tous les hommes à la gloire de Dieu. Je connais tes œuvres. Si un homme craint de ne pas être agréable à Dieu, qu'il accomplisse la parole. Si un homme se demande s'il entendra ses paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur, qu'il accomplisse la parole de Dieu dans sa vie et il entendra assurément ses paroles de louange. C'est la parole de vérité qui était le critère à l'époque. C'est elle qui est le critère maintenant. Il n'y a pas d'autres normes. Il n'y a pas d'autres règles. Comme le monde sera jugé par un seul, Jésus-Christ, ainsi il sera jugé par la parole. Si un homme veut savoir où il en est, qu'il fasse ce que Jacques suggère, qu'il regarde dans le miroir la parole de Dieu. Je connais tes œuvres. Alors qu'ils s'étaient là avec la parole en examinant leur vie à la lumière du plan qu'il avait établi pour eux, il doit avoir été hautement satisfait. En effet, comme les autres qui étaient morts avant eux, ils supportaient d'être persécutés par les injustes et continuaient à s'attacher avec joie au Seigneur. Même s'il était parfois bien difficile de servir le Seigneur, il les servait quand même et l'adorait en esprit et en vérité. Mais il n'en était pas ainsi de la fausse vigne. Hélas, ils avaient rejeté la vie qui est édifiée sur la parole et maintenant ils ne cessaient de s'éloigner de la vérité. L'exact témoin des profondeurs dans lesquelles ils s'étaient enfoncés. Tu retiens mon nom. À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ils avaient tenu bon à l'époque. Ils tenaient bon maintenant, mais non pas par une crainte fataliste, comme des hommes qui vivent une vie stérile. Ils étaient bons dans sa force, dans l'assurance que leur donnait l'esprit qu'ils étaient un en lui. Ils avaient la certitude que leurs péchés étaient pardonnés, et ils portaient le nom des chrétiens pour en témoigner. Ils connaissaient et ils aimaient ces noms qui étaient au-dessus de tout nom. Ils avaient fléchi les genoux devant ces noms. Leur langue l'avait confessé. Tout ce qu'ils faisaient, ils les faisaient au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient prononcé ces noms. Ils s'étaient éloignés du mal. Et ayant pris cette position, ils étaient maintenant prêts à mourir pour ces noms, car ils avaient l'assurance d'une meilleure résurrection. Réveille-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Au deuxième siècle déjà, le mot Père, Fils et Saint-Esprit correspondait pour beaucoup de gens à la Trinité et l'idée polythéiste qu'il y aurait trois dieux était devenue une doctrine dans la fausse Église. Le nom n'allait pas tarder à être écarté et d'ailleurs il le fut dans cet âge et c'est par le titre du seul grand Dieu qu'on allait remplacer le nom Seigneur Jésus-Christ. Alors que le plus grand nombre abandonnait la foi véritable et adoptait une Trinité en baptisant au moins des titres et la divinité. Les petits troupeaux continuent à baptiser au nom de Jésus-Christ, restant ainsi attachés à la vérité. Puisque tant de chrétiens déshonoraient Dieu en faisant de lui trois dieux et en remplaçant son bon nom par des titres, on peut se demander si les signes et les prodiges qui accompagnent un nom si glorieux allaient quand même se manifester parmi les gens. Oui, ces signes se manifestaient de façon puissante et merveilleuse, mais certainement pas dans la force vine. Des hommes comme Martin furent puissamment utilisés et Dieu leur rendit témoignage tant par des signes et des prodiges que par les dons du Saint-Esprit. Ce nom était toujours efficace. Il a toujours été et il le sera toujours quand les saints l'honorent par la parole et par la foi. Tu n'as pas renié ma foi. Dans Actes, chapitre 3, verset 16, quand on a demandé à Pierre comment s'était produit le puissant miracle de l'infirme à la porte appelée la Belle, voici comment il a expliqué. Et par la foi en son nom, celui de Jésus, son nom, celui de Jésus, a raffermi cet homme qui était infirme, que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui est par de lui, Jésus, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres, en la présence de vous tous. Version Darby. Vous voyez, c'est cela. C'est le nom de Jésus et la foi de Jésus qui ont produit le miracle. Pierre ne prétendait pas que c'était par sa propre foi humaine, pas plus qu'il ne prétendait que c'était son propre nom. Il a dit que le nom de Jésus, utilisé à la foi qui vient de Jésus, avait accompli cette œuvre glorieuse. C'est de cette foi-là que parlait le Seigneur dans Apocalypse 2:13. C'était sa foi à lui, ce n'était pas la foi en lui, mais c'était sa propre foi à lui qu'il avait donné aux croyants. Romains 12:3. C'est dans la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, d'après le verset 1, c'est chacun, ce sont les frères. Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela, la foi, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est aussi dit dans Jacques 2 verset 1, mes frères, remarquez, lui aussi, il s'adresse aux frères. N'ayez pas la foi de, pas en, notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant exception des personnes. Version Darby. Dans cet âge de Pergame où les hommes humanisaient le salut, s'étant détourné la vérité sans laquelle le salut vient de l'Éternel, ayant rejeté la doctrine de l'élection et ouvert tout grand la porte de leur église, de leur communion fraternelle à quiconque voulait bien accepter leur doctrine, quoi qu'en dise la parole, dans cet âge qui s'est dégradé rapidement, il y avait encore un petit nombre de ceux qui avaient la mesure de cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne bornaient pas à utiliser cette foi dans des actes de puissance, mais qui s'opposaient également à ceux qui osaient se dire sauvés par le seul fait d'adhérer à une église. Ils savaient que personne ne pouvait vraiment croire jusqu'à recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu sans avoir la mesure de foi qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Les problèmes de l'église aujourd'hui, de cette foule de croyants cérébraux qui admettent la naissance virginale, les saints versets, qui admettent qu'il faut aller à l'église et prendre la communion et qui ne se sont pas du tout nés de nouveau, est un problème qui touchait déjà ce troisième âge. La foi humaine ne suffisait pas à l'époque et elle ne suffit pas maintenant. Il faut que la foi même du Fils de Dieu descende dans les cœurs des hommes pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur de gloire dans un temple qui n'est pas construit de mains d'homme. Cette foi était une foi vivante. J'ai vu par la foi des fils de Dieu. Paul n'a pas dit qu'il vivait par la foi dans les fils de Dieu. C'était la foi du Fils de Dieu qui lui avait donné la vie et par laquelle il vivait constamment dans la victoire chrétienne. Non, il n'avait pas nié que le salut était surnaturel d'un bout à l'autre. Il faisait vivre la vérité de son nom et de sa foi. Ils étaient bénis par le Seigneur et trouvés dignes de lui. Antipas, mon témoin fidèle. Nous ne disposons pas d'autres renseignements sur ses frères, ni par la parole, ni par l'histoire profane. Mais tout autre renseignement serait bien superflu. Il nous est amplement suffisant de savoir qu'il était dans la présence du Seigneur et qu'il était connu de lui. Il nous est amplement suffisant de savoir sa fidélité au Seigneur mentionnée dans la parole vivante. C'était un chrétien. Il possédait le nom de Jésus. Il avait la foi de notre Seigneur Jésus-Christ et il était de ceux qui vivaient par cette foi. Il avait réagi aux paroles de Jacques. N'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ en faisant acception de personne. Rempli du Saint-Esprit et de foi, comme Étienne, il ne s'en laissait imposer par personne. Il ne craignait personne. Et quand la sentence de mort s'abattit sur tous ceux qui revêtiraient ce nom et qui marcheraient dans la foi de Jésus-Christ, il prit position avec ceux qui refusaient de retourner leur veste. Oui, il est mort, mais comme Abel, il a reçu un témoignage de Dieu. Son nom est inscrit dans la parole. Et bien qu'il soit mort, sa voix continue de parler à travers le page du texte divin. Un fidèle martyr venait encore d'atteindre le repos, mais Satan n'avait pas pour autant remporté une victoire, pas plus qu'il en avait remporté une en mettant à mort le prince de paix. En effet, comme Satan a été dépouillé à la croix, de même le sang d'Antipas en appelle maintenant des centaines d'autres qui prendront leur croix pour suivre le Seigneur. Là où est le trône de Satan. La raison pour laquelle ceci est mentionné dans l'éloge de l'Esprit, c'est que ce brave soldat de la croix remportait la victoire sur Satan en plein milieu de la salle où celui-ci a son trône. Il remportait la bataille par le nom et la foi de Jésus en plein milieu du camp des chefs des ténèbres. Quelle formidable distinction! Comme le vaillant homme de David, qui avait pénétré dans les camps de l'ennemi pour en ramener l'eau dont David pourrait se désaltérer, ces géants de la foi ont pénétré dans les domaines de la forteresse de Satan sur terre, et par leur prédication et leur exhortation, ils ont apporté l'eau du salut à ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort. Or, si ces paroles qui font mention du trône et du domaine de Satan font partie de l'éloge que Dieu adresse à ses élus, elles n'en introduisent pas moins la dénonciation du mal qui s'est emparé du pouvoir dans l'Église. Pergame, le trône est la demeure de Satan. Beaucoup n'ont vu dans ces mots qu'une simple image et non un fait historique. Ces mots sont pourtant une réalité démontrée par l'histoire. Pergame était bien le trône et la demeure de Satan. Voici comment les choses en sont arrivées là. À l'origine, ce n'est pas à Pergame que Satan demeurait, pour ce qui est des choses humaines. C'est toujours Babylone qui avait été, au propre comme au figuré, son quartier général. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Genèse 10, 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné, au pays des Chinéars. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons de briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. Il signifie confusion, bien qu'en fait, Cush, le fils de Cam, en soit le fondateur originel, c'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui en fit un royaume puissant et grandiose. D'après les récits de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane, Nimrod s'attacha à accomplir trois choses. Il voulait édifier une nation puissante, ce qu'il fit. Il voulait répandre sa propre religion, ce qu'il fit. Il voulait se faire un grand nom, ce à quoi il parvint aussi. Ses réalisations furent monumentales au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or parmi tous les gouvernements du monde. Le fait que les Écritures l'identifient entièrement à Satan dans Ésaïe chapitre 14 et dans Apocalypse chapitre 13 et 18 prouve que la religion de Nimrod a pris de l'ampleur et nous pouvons prouver par l'histoire qu'elle a envahi le monde entier et qu'elle est la base de tous les systèmes d'idolâtrie et les canevas des mythologies. Même si les dieux portent des noms différents dans les différentes religions du monde, selon les langues que les gens utilisent, il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus révèle à ses frères, il sera adoré et honoré, bien que sous un autre nom que celui de Nimrod, et dans ses temples, un peu différent de celui où on adorait à l'origine. Puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devons étudier les documents anciens et de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. La raison en est que les sciences et les mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Chaldéens avant que l'Égypte ne les transmette à son tour à la Grèce. Or, puisque c'était le prêtre qui détenait l'enseignement de ces sciences et que ces sciences avaient un rôle religieux, nous voyons donc là par quel biais la religion babylonienne est montée en puissance dans ces deux pays. Il est aussi vrai que chaque fois qu'une nation en a vaincu une autre, la religion du vainqueur a fini par devenir celle du vaincu. On sait que les Grecs utilisaient le même signe du zodiaque que les Babyloniens. Et des documents de l'Égypte ancienne montrent que les Égyptiens ont transmis leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi, le mystère de Babylone se sont répandus d'une nation à l'autre, au point qu'on les trouve à Rome, en Chine, en Inde, et que même en Amérique du Nord et du Sud, les rudiments du culte sont les mêmes. L'histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne n'était assurément pas la religion originelle du premier peuple de la terre. C'est la première à s'être écartée de la foi originelle, mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Des historiens comme Wilkinson et Mallet ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que jadis tout le peuple de la terre croyait en un seul Dieu, suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. Mais, comme Satan corrompt toujours ce qu'il peut corrompre, nous voyons qu'il corrompt la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. Ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu, et non les serviteurs et la création de Dieu, il a détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même et ainsi être exalté. Assurément, il a bien réalisé son désir, qui était de répandre sa religion sur toute la terre. Ceci est confirmé par Dieu dans l'Épître aux Romains. Ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils se sont ainsi égarés dans leurs pensées, et à une cause de ténèbres de leur cœur, ils ont accepté une religion corrompue au point d'adorer les créatures et non les créateurs. Souvenez-vous, Satan était une créature de Dieu, le fils de l'aurore. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, et si tous s'accrochaient à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour où un grand groupe se détourna de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. L'histoire précise que ceux de la tribu des Sem, qui tenaient bon pour la vérité immuable, étaient farouchement opposés à ceux de Cam, qui s'étaient détournés la vérité vers les mensonges du diable. Le temps nous manquerait pour discuter la question. Nous nous contentons donc de la soulever pour vous permettre de voir qu'il y avait deux religions, seulement deux, et que la mauvaise a pris une dimension mondiale. C'est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. C'est dans cette ville que le mensonge du diable et le mystère du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu et le mystère de Dieu. Satan est réellement devenu le dieu de ce monde et il s'est fait adorer par ceux qui l'avaient dupé en leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. La religion polythéiste de l'ennemi a commencé par la doctrine trinitaire. C'est à cette époque fort reculée de l'Antiquité que l'idée d'un dieu en trois personnes est née. Chose étrange, Nos théologiens modernes ne l'ont pas remarqué, mais ils sont de toute évidence tout aussi dupés par Satan qu'ils étaient leurs ancêtres. Ils croient toujours en trois personnes dans la divinité. Qu'on nous montre un seul passage de l'Écriture en matière d'autorité pour cette doctrine. N'est-il pas étrange que, pendant que les descendants des Cam continuent leur route dans l'adoration satanique fondée sur un concept des trois dieux, il n'y a chez les descendants de Sem aucune trace d'une croyance semblable, ni d'une cérémonie d'adoration qui y soit apparentée. N'est-il pas étrange que les Hébreux aient cru ceci? Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, et le seul Dieu, s'il y avait trois personnes dans la divinité. Dans Genèse 18, Abraham, le descendant de Sem, n'a vu qu'un seul Dieu avec deux anges. Or, comment représentait-on cette trinité? On l'a représentée par un triangle équilatéral, tout comme Rome la représente aujourd'hui. Chose étrange, les Hébreux n'avaient aucun concept de ce genre. Qui a raison alors? Les Hébreux ou les Babyloniens? En Asie, on exprime l'idée polythéiste selon laquelle il y a trois dieux en un, au moins d'une statue à trois têtes pour un seul corps. On les représente comme trois intelligences. En Inde, les gens ont eu à cœur de les représenter comme étant un dieu en trois formes. Or, voilà tout à fait la théorie d'aujourd'hui. On trouve au Japon un grand Bouddha à trois têtes, comme ce qui est décrit plus haut. Mais la représentation la plus révélatrice de toutes est celle du concept trinitaire de Dieu par les trois aspects suivants. 1. La tête d'un vieillard qui symbolise Dieu le Père. 2. Un cercle auquel le mystère donne l'essence des semences, semence qui signifie fils. 3. Le zèle et la queue d'un oiseau, une colombe. C'était là la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trois personnes dans la divinité, une véritable trinité. On peut voir la même chose à Rome. Je pose encore une fois la question. N'est-il pas étrange que les diables et ses adorateurs aient eu une plus grande révélation de la vérité qu'en avaient les pères de la foi, Abraham et ses descendants? N'est-il pas étrange que les adorateurs de Satan en aient su plus long sur Dieu que les enfants de Dieu? C'est pourtant cela que les théologiens modernes essaient de nous dire en parlant d'une trinité. Dorénavant, gardez bien ceci à l'esprit. Ce sont des faits réels que nous venons d'exposer, et voici un fait réel. Satan est le père du mensonge, et quand il apporte une lumière, c'est un mensonge quand même. Il est un meurtrier, et sa doctrine de la Trinité a détruit des multitudes, et continuera à détruire jusqu'à ce que Jésus vienne. L'histoire nous montre que cette idée d'un père, d'un fils et d'un Saint-Esprit n'a pas tardé à être modifiée. Satan entraînait les gens, pas à pas, loin de la vérité. Les concepts de la divinité s'étaient développés pour devenir 1. Le Père éternel. 2. L'Esprit de Dieu incarné dans une mère humaine. Est-ce que cela vous donne à réfléchir? 3. Un Fils divin, fruit de cette incarnation, la semence de la femme. Mais le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore. Lui, il est seulement adoré de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Par ses mystères, il révèle aux gens que, puisque le grand Dieu invisible, les pères, ne s'occupent pas des affaires des hommes mais restent silencieux à leur sujet, on peut très bien l'adorer en silence. Il s'agit en fait de l'ignorer autant que possible, sinon complètement. Cette doctrine, elle aussi, a fait le tour du monde et l'on peut aujourd'hui voir en Inde que les temples dédiés au grand créateur, au Dieu silencieux, sont remarquablement peu nombreux. Comme il n'était pas nécessaire d'adorer les pères créateurs, c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant, devenus les objets du culte. En Égypte, le même ensemble de mère-fils était appelé Isis et Osiris. En Inde, c'était Isis et Iswara. Remarquez comme les noms eux-mêmes sont similaires. En Asie, c'était Cybèle et Déus. Rome et la Grèce perpétuèrent ces cultes. La Chine aussi. Imaginez donc la surprise de certains missionnaires catholiques romains en trouvant, à leur arrivée en Chine, une madone en l'enfant avec des raies de lumière qui émanent de la tête de l'enfant. Cette statue aurait tout à fait pu être échangée contre une qu'on trouvait au Vatican, à l'exception de quelques traits particuliers du visage. La déesse mère originelle de Babylone était Semiramis, qu'on appelait Réa en Orient. Elle tenait dans ses bras un fils. Bien que ce dernier ne fût qu'un bébé, On les disait grands, forts, beaux et particulièrement attirants pour les femmes. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 14, il est appelé Tammuz. Les auteurs classiques l'appelaient Bacchus. Pour les Babyloniens, c'était Ninus. Ce qui explique le fait qu'on les représentait comme un bébé qu'on tient dans les bras, tout en décrivant comme un grand homme fort, ce qu'on appelait le fils Marie. L'un de ses titres était le mari de la mère. En Inde, où ils sont connus sous le nom d'Iswara et ici, le mari est représenté comme un bébé au sein de sa propre femme. Nous pouvons affirmer avec certitude que ce Ninus est le Nimrod de la Bible en comparant l'histoire avec les récits de la Genèse. Pompée disait « Ninus, roi d'Assyrie, a changé la façon de vivre modérée d'autrefois par son désir de conquête. Il fut le premier à guerroyer contre ses voisins. Il conquit toutes les nations de la Syrie jusqu'à la Libye, car ces hommes ne connaissaient pas l'art de la guerre. » Diodore dit « Ninus est le premier des rois assyriens mentionnés dans l'histoire. Ayant l'esprit guerrier, il instruisit avec rigueur de nombreux jeunes hommes dans l'art de la guerre. Il s'assujettit à la Babylonie alors même que la ville de Babylone n'existait pas encore. Nous voyons donc que ce Ninus commença à acquérir de la puissance en Babylonie, qu'il bâtit Babel et qu'il conquit la Syrie, dont il devint le roi, pour ensuite continuer à dévorer d'autres vastes territoires dont les habitants ne savaient pas faire la guerre et vivaient, comme disait Pompée, de façon modérée. Or, dans Genèse 10, il est dit du royaume du Nimrod. Il régnait d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ces pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Kalash, ainsi de suite. Mais le traducteur se sent trompé en traduisant Assur comme un nom. En effet, c'est un verbe qui veut dire « affermir » en chaldéen. C'est donc Nimrod, après s'être affermi, il avait établi son royaume en mettant sur pied la première armée du monde qu'il avait formée au moins des exercices de combat et de rigueur de la chasse, qui alla au-delà de Shinéar avec sa puissante armée pour s'assujettir des nations et bâtir des villes comme Ninive, qui portait son nom, car aujourd'hui encore, une grande partie des ruines de cette ville est appelée Nimrod. Comme nous avons découvert qui était Ninus, il nous faut maintenant découvrir qui était son père. Selon l'histoire, c'était Bel, le fondateur de Babylone. Il faut bien remarquer qu'on entend par là que c'est lui qui a lancé tous les mouvements. Par contre, c'est le fils, Ninus, qui l'a établi, qui en fut le premier roi. Ainsi de suite. Mais selon les Écritures, le père de Nimrod était Cush. Cush engendra aussi Nimrod. Et non seulement cela, mais nous trouvons que Cam a engendré Cush. Or, dans la culture égyptienne, Bel était appelé Hermès, et Hermès signifie « fils de Cam ». D'après l'histoire, Hermès était le grand prophète de l'idolâtrie. Il était l'interprète des dieux. On l'appelait aussi Mercure. Lisez Actes, chapitre 14, versets 11 à 12. Higinis dit de ces dieux, qu'on appelait de plusieurs noms, Bel, Hermès, Mercure, ainsi de suite, pendant longtemps, les hommes vivaient sous le gouvernement des Jove, non pas les Jupiter des Romains, mais les Jova des Hébreux, antérieurs à l'histoire romaine, sans ville et sans loi, parlant tous le même langage. Mais Mercure, Bel, Cush, ayant interprété le discours des hommes, d'où les noms d'Horménotes pour désigner un interprète, sépara aussi les nations. Dès lors, la discorde commença. Nous voyons par là que ce Bel, ou Cush, père de Nimrod, était à l'origine le chef de ces clans qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu et qui encouragea les gens, en se donnant pour interprète de Dieu, à accepter une autre forme de religion. Il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fut effectivement le bâtisseur. C'est d'encourager cela qui amena la confusion et la division parmi les hommes. Il était ainsi à la fois l'interprète et le fauteur de confusion. C'est donc Cush qui fut le père du système polythéiste, et quand les hommes ont été déifiés par des hommes, c'est lui, bien sûr, qui est devenu le père des dieux. Or, Cush était appelé Bel, et Bel, dans la mythologie romaine, c'était Janus. On les représente avec deux visages et portant une massue au moyen de laquelle il mettait les gens en déroute et les dispersait. Ovide écrit que Janus disait de lui-même « Les anciens m'ont appelé Chaos ». Nous voyons ainsi que le Cush de la Bible, le premier à s'être rébellé contre les monothéistes, était appelé Bel, Belus, Hermès, Janus, ainsi de suite, par le peuple de l'Antiquité. Ils prétendaient transmettre aux gens les révélations et les interprétations données par les dieux. En faisant cela, ils poussa la colère des dieux à disperser les peuples, de là la division et la confusion. Nous avons donc vu jusqu'ici d'où vient le polythéisme, ou culte de plusieurs dieux. Mais avez-vous remarqué que nous avons aussi trouvé qu'il est fait mention d'un homme appelé Cush, à qui on a donné le titre de « Père des dieux » Avez-vous remarqué le vieux terme des mythologies anciennes, les dieux qui s'identifient à des hommes? C'est de là que provient le culte des ancêtres. Examinons donc l'histoire pour savoir ce qu'il en est du culte des ancêtres. Eh bien, il s'est avéré que Cush a introduit un culte à trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit, trois dieux qui étaient tous égaux. Mais il savait que la semence de la femme allait venir, il fallait donc faire intervenir une femme et sa semence. Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod. Son épouse, Semiramis, le Déifia, se plaçant ainsi comme la mère du Fils et aussi la mère des dieux, tout comme l'Église romaine a déifié Marie. Ils prétendent qu'elle était sans péché et qu'elle était la mère des dieux. Elle, Semiramis, appela Nimrod Zoroastra, ce qui signifie la semence promise de la femme. Mais avant longtemps, la femme commença à attirer plus d'attention que le fils, et on ne tarda pas à la décrire comme celle qui écrasait le serpent sous son pied. On l'appelait la reine du ciel, et on la disait divine. Comme cela ressemble à ce qui se passe aujourd'hui avec Marie, mère de Jésus, qu'on a élevée jusqu'à l'immortalité. Ainsi maintenant, depuis septembre 1964, le Concile du Vatican tente de donner à Marie une qualité qu'elle ne possède pas. En effet, il veut l'appeler Marie la médiatrice, Marie, mère de tous les croyants ou mère de l'Église. Si jamais il y a eu une religion qui contient un culte des ancêtres à la façon babylonienne, c'est bien la religion de l'Église de Rome. Il n'y a pas que le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de la nature. C'est à Babylone qu'on a identifié les dieux avec le soleil, la lune, ainsi de suite. L'élément principal dans la nature était le soleil, qui possède la faculté de fournir lumière et chaleur, et que l'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi, les dieux principaux étaient les dieux soleil qu'on appelait Baal. Souvent, on représentait le soleil comme un cercle de feu qu'on vit bientôt entouré d'un serpent. Avant longtemps, le serpent était devenu un symbole du soleil. Il en résulta qu'on s'est mis à l'adorer. Le désir du cœur de Satan était ainsi parvenu à son ultime aboutissement. Il était adoré comme Dieu. Son trône était établi. Ses esclaves se prosternaient devant lui. Il était adoré là, à Pergame, sous la forme d'un serpent vivant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant représenté sous la forme d'un serpent vivant, avait séduit non seulement Ève, mais aussi la plus grande partie de l'humanité. Mais comment Pergame est-elle devenue le trône de Satan, si ce trône était à Babylone? Une fois encore, l'histoire nous donne la réponse. Quand Babylone est tombée entre les mains de Mèdes et des Perses, Attal, le roi prêtre, s'en fout de la ville et s'installa à Pergame avec ses prêtres et ses mystères sacrés. Il établit là son royaume, à l'extérieur de l'Empire romain, et il prospéra, aidé par la solitude du diable. Voilà donc un résumé très succinct de l'histoire de la religion babylonienne et de la façon dont elle a abouti à Pergame. Sans doute beaucoup de questions restent-elles sans réponse. Il y en aura certainement eu bien plus à dire pour nous éclairer. Toutefois, ce résumé ne se veut pas une étude historique, mais plutôt une aide à l'étude de la parole. La dénonciation. Apocalypse chapitre 2, versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que j'ai hais. Dans ces tâches de Pergame, le Seigneur dénonce deux doctrines qu'il hait. 1. La doctrine de Balaam qui, à Baal Péor, a introduit en Israël l'idolâtrie et les excès coupables. 2. La doctrine des Nicolaïtes qui, dans l'âge d'Éphèse, n'existait qu'à l'état d'œuvre. En associant cette dénonciation avec le fait qu'il souligne que Pergame est le trône de Satan, on peut aisément et justement conclure que la religion de Babylone s'est mélangée au christianisme. Or, ceci est plus qu'une simple supposition, c'est un fait historique que nous prouverons en reprenant l'histoire à partir des alentours de l'an 36 de notre ère et en la suivant jusqu'à Concile de Nicée en 325. Quand les chrétiens, pour la plupart juifs et de naissance, furent dispersés loin de Jérusalem, ils allèrent partout prêcher l'évangile, en particulier dans les synagogues. Ainsi, 3 ans plus tard, c'est-à-dire vers 36 après Jésus-Christ, l'évangile avait été apporté à Rome par Junius et Andronicus, qui étaient apôtres, selon Romains 16:7. L'œuvre y prospéra pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les incessantes querelles entre juifs poussent l'empereur Claude à chasser ces derniers de Rome. Les juifs bannis de la ville, la colonne vertébrale de cette petite église était presque brisée. Peut-être même que les anciens avaient été des juifs et qu'ils étaient donc partis. Les troupeaux restaient sans surveillance, et comme la parole n'avait pas encore été écrite pour servir de guide, ces petits risquaient fort de partir à la dérive ou d'être submergés par les philosophies, eux les païens de l'époque. Comme les loups criaient le rôdé et que l'esprit de l'Antichrist était en liberté, l'histoire nous montre que cette petite église de Rome rétrograda au-delà de tout espoir et qu'elle s'est mise à introduire des cérémonies païennes sous des titres chrétiens. La période d'exil ayant duré 13 ans, les fondateurs Junius et Andronicus ne rêvèrent pas avant l'an 54 après Jésus-Christ. Imaginez leur stupeur en trouvant une église affublée d'un titre chrétien, mais terriblement païenne. Il y avait dans l'église des autels sur lesquels on mettait de l'encens et sur lesquels on célébrait des rites païens. Ne pouvant pas obtenir des recours auprès des chefs établis de cette église, ils fondèrent une nouvelle église, la seconde église de Rome, avec les quelques individus qui avaient essayé de rester fidèles. Dieu agit généreusement parmi eux, au moyen des signes et des prodiges, au point qu'en fondant une troisième église. Eh bien, qu'on ait reproché à la première église d'être païenne et non chrétienne de culte, elle refusa d'abandonner son titre. Ainsi, elle resta et reste encore la première église de Rome, l'église catholique romaine. Or, la plupart d'entre nous avons l'idée erronée que ceux qui se disent chrétiens seront tous, sans exception, la cible du diable, et par conséquent, subiront la tyrannie des gouvernements. Mais il n'en est pas ainsi. La première église s'était mise à prospérer et à grandir en nombre, au point que les empereurs et plusieurs hauts responsables du gouvernement, pour des motifs d'ordre politique, favorisaient cette église. Ainsi, quand les dirigeants de la première église de Rome se trouvèrent favorisés, ils en profitèrent pour retourner le gouvernement contre les vrais croyants et pour exiger que ces derniers soient persécutés s'ils ne rejoignaient pas leur camp. Tel fut Anicée, évêque de la première église de Rome, qui vécut au IIe siècle et qui était de la même époque que Polycarpe. Quand le vénérable Polycarpe entendit que la première église chrétienne de Rome s'est livrée à des cérémonies païennes et qu'elle avait corrompu la vérité de l'évangile, il s'y rendit pour les implorer de changer. Il les vit se prosterner devant les statues portant des noms d'apôtres et des saints. Il les vit allumer des cierges et brûler de l'encens sur l'autel. Il les vit célébrer la Pâque sous le nom de Pâque en élevant les pains en forme de disques qui honoraient les dieux soleil avant de répandre les vins en libation aux dieux. Mais ces saints vieillards qui avaient fait 1500 milles, 2500 kilomètres pour venir ne put les empêcher de sombrer. Au moment où ils s'en allaient, Dieu dit à travers lui, « Éphraïm est marié à ses idoles, laisse-les. » Osée chapitre 4, verset 15. Polycarpe ne revint jamais. À Anicée succéda le cruel évêque de Rome appelé Victor. Il introduisit encore plus de fêtes et de cérémonies païennes dans la première église et il se mit aussi à un devoir de faire tout son possible pour persuader les véritables églises chrétiennes d'adhérer à ces mêmes idées. Comme il refusait d'accéder à ces demandes, il persuada les responsables de l'église de persécuter les croyants en les traînant devant les tribunaux, en les jetant en prison et même en condamnant un grand nombre d'entre eux à mort. L'église nous fournit un exemple de ces actes infâmes. L'empereur Septime Sévère s'est laissé persuader par Calliste, ami de Victor, de mettre à mort 7000 vrais croyants à Thessalonique parce qu'ils célébraient la Pâque d'après l'enseignement de Jésus et non d'après le culte d'Astarté. Déjà la force vint déchaîner sa fureur contre les dieux vivants en tuant les élus, tout comme l'avait fait son ancêtre Caïn qui avait tué Abel. La véritable église continua à essayer d'amener la première église à se repentir. Cette dernière refusa. Elle croissait en nombre et en influence. Elle s'engagea dans une campagne permanente visant à discréditer la vraie semence. Ils prétendaient qu'eux seuls étaient les vrais représentants du Seigneur Jésus-Christ en mettant en avant le fait qu'ils étaient l'église originelle de Rome, qu'eux seuls étaient la première église. Ils étaient vraiment la première église et ils le sont toujours. Ainsi, à l'époque de ce troisième âge de l'église, nous avons deux églises qui portent le même nom, mais il y a une profonde différence entre elles. L'une a abandonné la vérité, épousé des idoles et n'a pas de vie en elle. Elle s'est hybridée et ce sont les signes de la mort et non de la vie qui marquent son sillage. Elle est puissante par le nombre de ses membres. Elle a la faveur du monde. L'autre est un petit groupe. Elle est persécutée, mais elle suit la parole et les signes la suivent. Les malades sont guéris et les morts ressuscités. Elle est vivante de la vie et de la parole de Dieu. Elle n'aime pas sa propre vie, mais elle reste attachée à son nom et à sa foi jusqu'à la mort. Ainsi, la terrible persécution de la Rome officielle s'abattit sur les vrais croyants jusqu'à ce que Constantin s'élève et accorde la liberté des cultes religieux. Il semble que deux raisons soient à l'origine de l'octroi de cette liberté. En premier lieu, plusieurs bons empereurs n'avaient pas autorisé les persécutions, mais une fois disparus, ils avaient été suivis par d'autres qui mettaient les chrétiens à mort. C'était tellement absurde que l'opinion publique finit par admettre qu'il fallait laisser les chrétiens tranquilles. La deuxième raison, la plus remarquable, est que Constantin allait au-devant d'une bataille très difficile dans la conquête de l'Empire. Une nuit, en songe, il vit apparaître devant lui une croix blanche. Il lui sembla que c'était un présage qu'il remporterait cette bataille si les chrétiens priaient pour qu'il ait la victoire. Il leur promit la liberté au cas où il obtiendrait la victoire. Il gagna et la liberté des cultes religieux fut accordée par l'édit de Nantes en 312 de notre ère. Mais cette délivrance de la persécution et de la mort ne procédait pas d'une intention aussi généreuse qu'il y semblait au premier abord. En effet, Constantin s'est posé maintenant comme protecteur. Dans cette position de protecteur, son intérêt dépassait quelque peu celui d'un simple observateur, car il avait décidé que l'Église avait besoin qu'il l'aide dans ses affaires. Il avait constaté qu'il y régnait des désaccords sur plusieurs points, dont l'un était la doctrine d'Arius, évêque d'Alexandrie, qui enseignait à ses disciples que Jésus n'était pas réellement Dieu, mais plutôt un être inférieur puisque créé par Dieu. L'Église occidentale défendait les points de vue opposés en croyant que Jésus était l'essence même de Dieu. Et comme elle disait à l'égal du Père, devant de telles questions et devant l'introduction dans les cultes des cérémoniels païens, l'empereur convoqua les conciles de Nicée en 325 dans l'intention de rassembler tous les groupes pour qu'ils puissent aplanir leurs différends, trouver un point d'entente et tous s'unir. N'est-il pas remarquable que, bien que ce mouvement ait commencé sous Constantin, il n'ait pas dépéri mais qu'il soit encore bien vivant aujourd'hui dans les conseils œcuméniques des églises? D'ailleurs, si Constantin n'ait pu réaliser entièrement cette unité, le mouvement œcuménique, lui, y parviendra à notre époque. Or, cette ingérence de l'État dans les affaires de l'Église est contraire au bon sens, car le monde ne comprend ni la vérité contenue dans la parole, ni les voies de l'Église. Pensez donc, la décision même du concile qui donnait tort à Arius fut renversée par l'empereur 2 ans plus tard, et cette fausse doctrine fut imposée aux gens pendant bien des années. Cependant, le Seigneur savait d'avance que l'Église et l'État allaient s'unir. Le nom même de Pergame signifie « entièrement marié ». Et l'Église et l'État s'étaient effectivement mariés. La politique et la religion s'étaient unies. Les produits de cette union n'ont jamais manqué d'être les plus affreux hybrides que le monde ait connus. La vérité n'est pas en eux, mais toutes les mauvaises voies de Caïn, les premiers hybrides, y sont. C'est dans cette âge que non seulement l'Église et l'État se sont unis, mais aussi que la religion de Babylone fut officiellement rattachée à la première église. Satan avait désormais accès au nom de Christ, et dans les cultes, il siégeait sur les trônes comme s'il était Dieu. Grâce aux subventions de l'Empire, les églises héritèrent de beaux édifices parés d'autels de marbre blanc et de statues de saints défunts. C'est dans cet âge même que la bête d'Apocalypse 13:3, qui avait été blessée à mort, l'Empire romain païen, a retrouvé vie et puissance en tant que Saint-Empire romain. Rome, en tant que nation physique, avait subi de grandes pertes et allait bientôt être anéantie. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant, car, par son empire religieux, elle ne cesserait de dominer le monde, en gouvernant à partir de l'intérieur sans les laisser paraître à l'extérieur. Je vais vous montrer la vérité exacte de la chose par l'écriture, car je ne veux pas que quelqu'un puisse penser que j'apporte une révélation de moi-même, une révélation qui ne se trouverait pas dans l'écriture. Daniel chapitre 2 verset 31 à 45. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pierres de fer et de l'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, le bête des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Nous trouvons ici un exposé détaillé des événements de l'histoire à venir avant leur accomplissement. Il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. Cette période est appelée le temps des nations. Elle se divise en quatre époques historiques qui correspondent à l'empire qui a dominé chacune de ses parties. L'époque babylonienne, médo-perse, hellénique et romaine. La plus grande et la plus absolue des monarchies était celle de Babylone, symbolisée par la tête d'or. Au second rang, en termes de gloire, venait celle de Mède et de Perse, moins glorieuse, comme le montre l'histoire, et qui était symbolisée par la poitrine et les bras d'argent. Puis suivit l'âge hellénique, dont le roi était le chef militaire le plus brillant que le monde ait jamais connu. Ainsi, il correspondait bien à l'image du ventre et des cuisses des reins. Il était moins glorieux que les deux précédents. Puis vint enfin le dernier royaume, l'Empire romain, symbolisé par les jambes et les pieds. Mais alors que le royaume précédent était symbolisé par les minéraux purs, l'or pur, l'argent pur et les reins purs, ces derniers empires n'avaient en fer pur que les jambes, car les pieds étaient faits d'un mélange d'argile et de fer, alors que le métal et la terre ne peuvent pas s'allier et produire constance et force. Et ce n'est pas tout. Le plus étonnant, c'est que ces derniers empires, l'Empire romain, allaient durer, fait de ces curieux mélanges jusqu'au retour de Jésus. Cet empire romain de fer, le fer signifie la puissance et une grande force pour détruire l'adversaire, allait se composer des deux parties principales, ce qui fut bien le cas, car l'empire se divisa littéralement en deux, empire d'Orient et empire d'Occident. Tous les deux étaient fort puissants et écrasaient tout devant eux. Mais comme la gloire et la puissance de tous les empires finissent par s'éteindre, cet empire s'achemina lui aussi vers sa chute. Ainsi, Rome tomba. La Rome impériale païenne n'était plus de fer. Elle s'écroulait. Elle était blessée à mort. À présent, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. C'est là ce que pensait le monde. Mais le monde avait bien tort, car cette tête, Rome, bien que blessée, n'était pas blessée à mort. Apocalypse chapitre 13, verset 3, d'après la version anglaise, West. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, la gorge ayant été tranchée, mais la blessure mortelle fut guérie. Là-dessus, toute la terre, remplie d'admiration, se rangea derrière la bête. Les gens considèrent Rome. Ils considèrent la nation italienne. Et en cela, ils ne se rendent pas compte que Rome, avec ses limites strictes où le pape possède un territoire qui lui appartient en propre, est en fait un pays dans un pays. Et qu'elle a des ambassadeurs et qu'elle reçoit des ambassadeurs. La Rome papale, faussement chrétienne, on l'appelle même la ville éternelle, quel blasphème, domine maintenant par la religion plus efficacement que la Rome impériale païenne, dominée par les fers purs de la force. Rome a reçu un nouveau souffle de vie quand Constantin a uni l'Église et l'État, et qu'il a soutenu cette union par la force. L'esprit qui animait la Rome païenne est le même esprit qui anime maintenant la Rome faussement chrétienne. Vous voyez qu'il en est ainsi, car vous savez maintenant que le quatrième empire n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement changé de forme extérieure. Une fois que le concile de Nicée avait donné à l'Église la puissance politique de Rome, la première Église chrétienne semblait prête à tout. Le nom des chrétiens qui, au départ, amenaient la persécution était maintenant devenu le nom des persécuteurs. C'est dans cet âge-là qu'Augustin d'Hippone, 354-430, posa les principes selon lesquels l'Église devrait et doit absolument, si nécessaire, utiliser la force pour ramener ses enfants au bercail et que la parole de Dieu permet de tuer les hérétiques et les apostats. Dans les débats qu'il opposait aux donatistes, il écrivit « Certes, il vaut mieux conduire les hommes à adorer Dieu par l'enseignement que de les y pousser par la crainte du châtiment ou par la douleur. Il ne faut cependant pas en conclure que, puisque la première des deux démarches pour de meilleurs hommes, on puisse négliger ceux qui ne la suivent pas. En effet, nombreux sont ceux qui ont gagné, comme l'espérance nous l'a montré et nous la démontre chaque jour, à être d'abord poussés par la crainte ou par la douleur, pour pouvoir être ensuite influencés par l'enseignement, afin qu'ils mettent en œuvre par l'exarche ce qu'ils ont déjà entendu en parole. Si ceux qui sont conduits par les droits chemins par l'amour sont meilleurs, ceux qui sont corrigés par la crainte sont certainement plus nombreux. Car qui pourrait nous aimer plus que Christ qui a donné sa vie pour les brebis? Et pourtant, après avoir appelé Pierre et les autres apôtres par ses seules paroles, quand il en vint à appeler Paul, non seulement s'imposa-t-il à lui par sa voix, mais il les jeta même à terre par sa puissance, et pour forcer celui qui s'est démené dans les ténèbres de l'infidélité à désirer la lumière du cœur, il commença par les frapper de l'aveuglement physique de ses yeux. Pourquoi l'Église n'utiliserait-elle donc pas la force pour contraindre ses fils perdus à revenir? Le Seigneur lui-même a dit, « Va dans le chemin et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. » Si dans la puissance que l'Église a reçue selon l'ordre divin au temps convenable, par les caractères religieux et la foi des rois, si cette puissance est l'instrument au moins duquel ceux qui se trouvent dans le chemin et les longs des haies, c'est-à-dire dans les hérésies et le schisme, sont contraints d'entrer, que ceux-ci supportent d'être contraints. La soif de sang prenait l'ampleur. La force vive en Espagne poussait maintenant l'empereur Maxime à participer aux assauts menés contre les vrais croyants qui avaient la parole, les signes et le prodige. Ainsi, certains présilianistes furent menés à trêve par l'évêque Ithaque en l'an 385. Il les accusa de sorcellerie et d'immoralité, et nombreux d'entre eux furent exécutés. Martin de Tours et Ambroise de Milan s'élevèrent contre cette persécution et supplièrent en vain de la faire cesser. La persécution était maintenue. Ces deux évêques refusèrent de rester en communion avec l'évêque d'Idate et d'autres de ses semblables. Paradoxalement, le synode de Trèves approuva le meurtre. À partir de ce moment, et en particulier pendant l'âge de ténèbres, nous verrons les enfants de la chair persécuter et faire périr les enfants de l'esprit, bien qu'ils se disent tous du même père, comme c'était le cas pour Ismaël et Isaac. Les ténèbres de la corruption spirituelle vont s'apaisir et la véritable lumière de Dieu va diminuer jusqu'à n'être plus, pour ce qui est du nombre, qu'une faible lueur. Pourtant, cette promesse de Dieu restera vraie. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent l'en empêcher. Or, je n'ai pas encore abordé les points historiques que j'avais promis de traiter. Le mélange de la religion de Nimrod avec la religion chrétienne. Vous vous souviendrez qu'Attal s'était enfoui de Babylone à Pergame et avait établi son royaume hors d'atteinte de l'Empire romain. Au fil du temps, ce royaume prospéra, entretenu par les dieux de ce monde. Plusieurs rois prêtres succédèrent à Attal, jusqu'au règne d'Attal III qui, pour deux raisons que le dieu souverain seul connaît, légua son royaume à Rome. Jules César prit alors possession du royaume spirituel aussi bien que physique, car il devint le pontifex maximum de la religion babylonienne, ce qui faisait de lui un roi prêtre. Ce titre fut transmis aux empereurs suivants jusqu'au règne de Maxime III, qui le refusa. D'après l'historien Étienne, c'est alors que le pape reprit la primauté que l'empereur avait rejetée, ainsi il y a aujourd'hui encore un pontife dans le monde, et il est véritablement le pontifex maximus. Il porte une triple couronne et il réside à Rome. Et dans Apocalypse 17, Dieu ne parle plus de Pergame comme étant le trône de Satan et ne dit pas non plus que c'est là que Satan a sa demeure. Non, la salle du trône n'est plus à Pergame, mais dans la Babylone mystère. Elle n'est pas à Babylone, mais dans la Babylone mystère. Elle est dans une ville bâtie sur 7 collines. Le chef de cette ville est Antichrist, car il a usurpé l'office du Christ, qui est le seul médiateur et le seul qui puisse pardonner les péchés. Oui, le pontifex Maximus est parmi nous aujourd'hui. La doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse chapitre 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot Nicolaïtes vient de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir. Et Lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïtes veut dire conquérir les laïcs. Or, pourquoi est-ce qu'une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son Église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a confié son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'Esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classe de sorte que le masse soit conduite par une sainte prêtrise. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas de toute l'assemblée. De plus, la parole ne mentionne nulle part que des prêtres, des ministres du culte ou autres font office de médiateurs entre Dieu et les gens, pas plus qu'elle ne mentionne qu'ils sont séparés dans les cultes qu'ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tous l'aiment et les servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ses préceptes en séparant les ministres du culte d'avec les gens et en donnant aux conducteurs une place de dominateur au lieu d'une place de serviteur. En fait, cette doctrine avait pris naissance dans les premiers âges sous forme d'œuvre. Il apparaît que le problème provenait de deux termes, ancien, presbytre, et surveillant, évêque. Bien que l'écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains, dont Ignace, se mirent à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir la prééminence, c'est-à-dire l'autorité et la haute main sur les anciens. Or, en fait, le mot ancien se rapporte à la personne elle-même, alors que le mot évêque se rapporte à la fonction remplie par l'homme en question. L'ancien, c'est l'homme. Évêque, c'est la fonction de ce même homme. Ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. Il est un ancien, non parce qu'il est élu, ordonné, ainsi de suite, mais parce qu'il est plus ancien. Il est plus mûr, mieux exercé. Ce n'est pas un novice. Il est digne de confiance à cause de son expérience et d'une expérience chrétienne éprouvée par les temps. Mais non, les évêques ne s'en sont pas tenus aux épîtres de Paul, mais ils se sont référés au récit que Paul fait de la foi où il avait appelé les anciens d'Éphèse à Milète dans Actes 20. Au verset 17, le récit déclare qu'il avait envoyé chercher les anciens, puis au verset 28, ils sont appelés surveillants, évêques. Et ces évêques, sans aucun doute animés derrière pensée politique et avides de pouvoir, affirmé avec insistance que Paul avait voulu dire que le surveillant était plus que l'ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs conducteurs spirituels locaux. Ce concept n'était conforme ni à l'écriture ni à l'histoire. Et pourtant, même un homme de l'envergure de Polycarpe penchait vers ce genre d'organisation. Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d'œuvre dans les premiers âges est devenu une doctrine au vrai sens du terme et le restait jusqu'aujourd'hui. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire d'eux ce qu'ils veulent en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère. C'est régner la conduite du Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est anti-parole et anti-Christ. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit « Vous savez que le chef des nations les tyrannise et que de grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Matthieu 23, versets 8 à 9. « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Pour rendre ceci encore plus clair, j'expliquerai le nicolaïsme de la façon suivante. Vous vous souvenez qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. « Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant, nous savons que la tête blessée était l'Empire romain païen, cette grande puissance politique mondiale. Cette tête s'est relevée comme l'Empire spirituel catholique romain. Observez bien ceci. Quelle était, dans les actions de la Rome païenne politique, le fondement de son succès? Elle divisait pour vaincre. C'était là la semence de Rome, divisée pour vaincre. Elle déchirait et dévorait des sédans de fer. Ce qu'elle avait déchiré et dévoré ne pouvait plus se relever, comme ce fut le cas pour Carthage, qu'elle avait détruite et anéantie. La même semence de fer est restée en elle quand elle s'est élevée comme la fausse église, et son principe est resté le même, divisé pour vaincre. C'est cela le nicolaïsme, et Dieu les hait. Or, c'est un fait historique bien connu que quand cette erreur s'est introduite dans l'église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d'évêque, ce qui pourrait faire de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d'esprit politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de la sagesse divine et ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut réellement un mal tragique, car les évêques se mirent à soutenir qu'il n'y avait plus besoin d'être un chrétien intègre pour apporter la parole ou pour accomplir les rites dans l'église, car c'était les éléments et les cérémoniels qui comptaient. Ceci permit à des hommes mauvais, des séducteurs, de déchirer les troupeaux. Après avoir établi cette doctrine d'homme, de lever les évêques à une place qui ne leur est pas accordée dans les Écritures, l'étape suivante fut de distribuer des titres en forme de grades qui dévorent une hiérarchie religieuse. Il y eut en effet bientôt des archevêques au-dessus des évêques, des cardinaux au-dessus des archevêques, et dès l'époque de Boniface III, il y avait au-dessus de tous un pape, un pontife. Avec la doctrine de Nicolette et l'amalgame du christianisme et du babylonisme fut réalisé ce qu'Ézéchiel avait vu dans Ézéchiel 8:10. J'entrai et je regardai, et voici il y avait toutes sortes de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Apocalypse chapitre 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « il est tombé, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Or, cette doctrine nicolaïte, cette domination qui avait été établie dans l'Église n'était pas très bien acceptée par un bon nombre de personnes, car ces derniers pouvaient lire quelques épîtres ou quelques essais sur la parole écrite par un homme pieux. Que fit alors l'Église? Elle excommunia les enseignants intègres et brûla les rouleaux. Ils dirent, il faut une instruction spéciale pour pouvoir lire et comprendre la parole. Pierre lui-même, ne disait-il pas que beaucoup des choses que Paul avait écrites étaient difficiles à comprendre? Comme en avait soustrait la parole au peuple, celui-ci en fut bientôt réduit à écouter seulement ce que les prêtres avaient à dire et à faire ce qu'ils lui dictaient. Ils appelaient cela Dieu et sa sainte parole. Ils s'emparèrent de la pensée et de la vie des gens et en furent les esclaves d'une prêtrise despotique. Maintenant, si vous voulez une preuve que l'Église catholique exige la vie et l'esprit des hommes, écoutez l'édit de Théodose X. Cet édit fut promulgué à la suite de son baptême par la première Église de Rome. Nous, trois empereurs, voulons que nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint Pierre, fidèlement conservée par la tradition et dont font maintenant profession les pontifes Damas de Rome et l'évêque Pierre d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique, selon l'institution des apôtres et la doctrine de l'Évangile. Croyons donc en une divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égaux en majesté dans la Sainte Trinité. Nous ordonnons que les adhérents à cette foi soient appelés les chrétiens catholiques. Nous marquons tous les adeptes insensés des autres religions du nom infâme d'hérétique et nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'Église. Outre la condamnation de la justice divine, ils doivent s'attendre aux lourdes peines que notre autorité, guidée par la sagesse céleste, jugera bon de leur infliger. Les 15 lois pénales promulguées en autant d'années par cet empereur privèrent les évangéliques de tous les droits d'exercice de leur religion, les exclurent de toutes les fonctions publiques et le menacèrent d'amendes, de confiscations, d'exil et même, dans certains cas, de mort. Savez-vous quoi? C'est ce qui nous pend au nez aujourd'hui. L'Église catholique romaine dit être l'Église mère. Elle dit être la première Église, l'Église originelle. C'est tout à fait exact. Elle était la première Église de Rome, celle de l'origine, qui a rétrogradé et qui a sombré dans les péchés. Elle a été la première à s'organiser, en trouvant en elle les œuvres, puis la doctrine du nicolaïsme. Personne ne nierait qu'elle est une mère. Elle est une mère et elle a produit des filles. Or, une fille est issue d'une femme. Une femme vêtue de pourpre est assise sur les 7 collines de Rome. Elle est une prostituée et elle a donné naissance à des filles. Ces filles sont les églises protestantes qui sont sorties d'elle pour ensuite revenir à l'organisation et au nicolaïsme. Cette mère des églises filles est appelée une prostituée, c'est-à-dire une femme infidèle à ses vœux de mariage. Elle a été mariée à Dieu, puis elle a dévié pour forniquer avec des diables. Et dans sa fornication, elle a produit des filles qui lui ressemblent. Cette combinaison de mère et de filles est anti-parole, anti-esprit, et par conséquent anti-Christ, oui, anti-Christ. Avant de continuer plus avant, je tiens à ajouter que ces premiers évêques se croyaient au-dessus de la parole. Ils disaient aux gens qu'ils pouvaient pardonner leurs péchés sur la confession de ces péchés. Cela n'a jamais été la vérité. Ils ont commencé à baptiser des nourrissons au IIe siècle. En fait, ils pratiquaient le baptême de régénération, rien d'étonnant à ce que les gens soient dans la confusion aujourd'hui. S'ils étaient dans la confusion à l'époque, aussi près du jour de la Pentecôte, ils sont aujourd'hui dans un état de plus désespéré, alors que près de 2000 ans les séparent de la vérité originelle. Ô Église de Dieu, il n'y a qu'un seul espoir, reviens à la parole et restez-y attachés. La doctrine de Balaam. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il n'est pas possible d'avoir une structure de type nicolaïte dans l'Église sans que cette autre doctrine fasse aussi son entrée. Voyez-vous, si l'on note la parole de Dieu et l'action de l'Esprit comme moyen d'adoration, il faut que ceux qui m'adorent m'adorent en esprit et en vérité. Il faudra alors donner aux gens une autre forme d'adoration comme substitut, et qui dit substitut, dit balamisme. Pour comprendre ce qu'est la doctrine de Balaam dans l'Église du Nouveau Testament, nous aurons avantage à retourner voir ce qu'elle était dans l'Église de l'Ancien Testament et à l'appliquer à ce troisième âge, et finalement à notre âge. Cette histoire est relatée dans Nombre, chapitre 22 à 25. Or, nous savons qu'Israël était le peuple choisi de Dieu. Ils étaient les pentecôtistes de leur époque. ils s'étaient réfugiés sous les sangs. Ils avaient tous été baptisés dans la mer Rouge et ils étaient sortis du milieu des eaux en chantant dans l'esprit et en dansant sous la puissance du Saint-Esprit, pendant que Marie la prophétesse jouait du tambourin. Eh bien, après avoir voyagé pendant quelque temps, ces enfants d'Israël sont arrivés à Moab. Vous vous rappelez qui était Moab? Il était fils de Lot, issu d'une de ses filles. Et Lot était lui-même un neveu d'Abraham. Israël et Moab étaient donc apparentés. Je veux que vous saisissiez cela. Les Moabites connaissaient la vérité, qu'ils aient vécu à la hauteur ou non. Israël arrive donc à la frontière du pays de Moab. Et on envoie au roi des messagers pour lui dire « Nous sommes frères, laissez-nous traverser votre pays. Si les gens de chez nous ou nos animaux mangent ou boivent quelque chose, nous les paierons volontiers. » Mais le roi Balak était très inquiet. Les chefs de ce groupe Nicolaïtes n'allaient quand même pas autoriser le passage de l'église avec ses signes, ses prodiges et diverses manifestations du Saint-Esprit, leur visage resplendissant de la gloire de Dieu. C'était trop risqué. Il aurait pu perdre quelques-uns de ceux de son groupe. Balak refusa donc de laisser Israël traverser. En fait, la peur qu'il lui inspirait était tellement grande qu'il est allé consulter un prophète mercenaire du nom de Balaam pour lui demander d'intervenir auprès de Dieu de sa part en demandant au Tout-Puissant de maudire Israël et de le rendre impuissant. Et Balaam, avide de participer aux affaires politiques et de devenir un grand homme, était tout à fait disposé à le faire. Mais comme il lui fallait s'approcher de Dieu et obtenir un entretien avec lui pour obtenir qu'il maudisse le peuple, puisqu'il ne pouvait pas le faire lui-même, il s'en alla donc demander à Dieu la permission d'y aller. N'est-ce pas tout à fait les Nicolaïtes que nous avons aujourd'hui? Ils maudissent tous ceux qui ne veulent pas suivre leur chemin. Quand Balaam demanda à Dieu la permission d'y aller, Dieu la lui refusa. Oh, quelle gifle! Mais Balak insista, en promettant une récompense et des honneurs encore plus grands. Alors Balaam s'adressa de nouveau à Dieu. Maintenant, une seule réponse de Dieu aurait dû lui faire suffire. Mais cela n'a pas suffi pour l'obstiné Balaam. Quand Dieu vit sa perversité, il lui dit de s'élever et d'y aller. Balaam s'empressa de sceller son âne et de partir. Il aurait dû comprendre que ce n'était que la volonté permissive de Dieu et qu'il ne pourrait pas le maudire. Dut-il y retourner 20 fois et essayer à 20 reprises? Comme les gens d'aujourd'hui ressemblent à Balaam, ils croient en 3 dieux, se font baptiser en 3 titres au lieu de se faire baptiser dans les noms, et pourtant Dieu envoie l'Esprit sur eux comme il l'a envoyé sur Balaam, et ils continuent en croyant être exactement dans les vrais, alors qu'en fait ils sont des parfaits balamistes. Voyez-vous, c'est la doctrine de Balaam. On y va quand même. On n'en fait qu'à sa tête. Ils disent, eh bien, Dieu nous a bénis, alors nous devons avoir raison. Je sais qu'il vous a béni, je n'ai ni pas cela. Mais c'est la même démarche d'organisation que celle de Balaam. C'est de défier la parole de Dieu. C'est un faux enseignement. Et Balaam, de chevaucher éperdument sur la route jusqu'à ce qu'un ange de Dieu lui barre le chemin. Mais ses prophètes, évêque, cardinal, délégué, général, président du comité, surveillant général, était tellement aveuglé aux choses spirituelles par l'idée de l'honneur, de la gloire et de l'argent qu'il n'a pas vu l'ange qui s'éteignait là, l'épée à la main. Il s'éteignait là pour arrêter les prophètes insensés. Le petit âne le vit et chercha à s'écarter jusqu'à finir par écraser les pieds de Balaam contre un mur de pierre. L'âne s'arrêta et refusa de partir. Il ne le pouvait pas. Balaam descendit donc et se mit à les frapper. Alors l'âne se mit à parler à Balaam. Dieu donna à cet âne de parler en langue. Cet âne n'était pas hybride, il était une semence originelle. Il dit au prophète aveugle, « Ne suis-je pas ton âne? N'étais-je pas fidèlement porté? » Balaam répondit, « Oui, oui, tu es mon âne et tu m'as fidèlement porté jusqu'à maintenant. Mais maintenant, tu as intérêt à repartir, sinon je te tue. » Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler à un âne. Comme c'est bizarre, il m'a semblé entendre l'âme me parler et je lui répondais. Dieu a toujours parlé en langue. Il a parlé au festin de Belshazzar et puis à la Pentecôte. Il est fait de nouveau aujourd'hui. C'est l'avertissement d'un jugement imminent. Ensuite, l'ange s'est rendu visible à Balaam. Il dit à Balaam que sans l'âne, il serait déjà mort pour avoir tenté Dieu. Mais quand Balaam promit de retourner, il lui reçut l'ordre de continuer et de ne dire que ce que Dieu lui donnerait de dire. Balaam descendit donc et dressa 7 autels pour les animaux purs de sacrifice. Il tua un bélier, symbole de la venue du Messie. Il savait ce qu'il devait faire pour s'approcher de Dieu. Sa mécanique était en ordre, mais pas sa dynamique. Tout comme aujourd'hui. Ne pouvez-vous pas le voir, Nicolaïte? Israël était là, dans la vallée, offrant les mêmes sacrifices, faisant les mêmes choses, mais un seul côté était accompagné des signes. Un seul côté avait Dieu au milieu d'eux. Les formes religieuses ne vous mèneront nulle part. Elles ne peuvent pas remplacer la manifestation de l'Esprit. C'est ce qui est arrivé à Nicée. Ils ont fait accepter la doctrine de Balaam par la doctrine de Dieu. Ils ont trébuché. Oui, ils sont tombés. Ils n'étaient plus que des hommes morts. Une fois les sacrifices consommés, Balaam était prêt à prophétiser. Mais Dieu avait lié sa langue et il n'a pas pu les maudire, il les a bénis. Balak était très furieux, mais Balaam ne pouvait rien changer à cette prophétie. Elle avait été prononcée par le Saint-Esprit. Balak demanda donc à Balaam de descendre plus bas, dans la vallée, vers un endroit d'où il aurait une vue sur les arrières d'Israël, pour qu'il essaie de trouver une raison quelconque de les maudire. La tactique que Balak utilisait est la tactique qu'ils utilisent aujourd'hui. Les grandes dénominations regardent le petit groupe des hauts, et dès qu'ils trouvent de quoi faire un scandale, ils écrivent sur le toit. Si les gens modernes vivent dans le péché, personne n'en parle. Si un élu a des ennuis, par contre, tous les journaux se dépêchent de colporter la nouvelle d'un bout à l'autre du pays. Oui, Israël avait ses travers, ses côtés charnels. Ils avaient un côté peu louable, mais malgré leur imperfection, par les desseins de Dieu qui agit par élection, par la grâce et non pas par les œuvres. Ils avaient la nuée des jours et la colonne de feu de nuit. Ils avaient les rochers frappés, les serpents de reins, les signes et les prodiges. Ils étaient confirmés, pas pour eux-mêmes, mais en Dieu. Dieu ne faisant aucun cas des Nicolaïtes avec leur doctorat en philosophie, en droit et en théologie, avec toutes leurs belles organisations, et les meilleures choses dont l'homme puisse s'enorgueillir. Par contre, ils faisaient cas d'Israël parce qu'ils avaient la parole confirmée parmi eux. Sans doute Israël n'avait-il pas l'air bien reluisante alors qu'elle vient de quitter l'Égypte au cours d'une fuite précipitée, mais elle était quand même un peuple béni. Depuis 300 ans, elle n'avait connu que l'élevage des troupeaux, la culture des champs et l'esclavage, dans la crainte de la mort sous la menace des Égyptiens. Mais à présent, elle était libre. Elle était un peuple béni par la volonté souveraine des dieux. Sans doute que Moab la regardait de haut. Toutes les autres nations faisaient de même. Les organisations regardent toujours de haut ceux qui n'ont pas d'organisation. Ou bien, ils les forceront à intégrer l'organisation, ou bien ils les détruiront s'ils refusent d'obtempérer. Quelqu'un pourrait me demander, « Frère Branham, qu'est-ce qui vous fait penser que Moab avait une organisation et qu'Israël n'en avait pas ?» Où allez-vous chercher cette idée? Je la trouve ici même dans la Bible. Tout est ici en type. Tout ce qui est écrit sous forme d'histoire dans l'Ancien Testament y est écrit pour notre gouverne, pour que nous en tirions une leçon. C'est ici même, dans Nombre 23:9, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est cela. Dieu regarde du sommet des rochers, pas du fond d'une vallée pour voir leurs mauvais côtés et pour les condamner. Dieu le voit comme il veut le voir, du haut de son amour et de sa miséricorde. Il demeurait à part et il n'était pas organisé. Il n'avait pas de roi. Ils avaient un prophète et les prophètes avaient Dieu en lui par l'esprit et la parole venait aux prophètes et la parole était transmise au peuple. Il n'était pas membre de l'ONU. Il n'était pas membre du conseil écuménique des églises, des baptistes, des presbytériens, de l'Assemblée des dieux, ni d'aucun autre groupe. Il n'avait pas besoin d'être membre. Ils étaient unis à Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'être conseillés par un conseil. Ils avaient l'insigne du Seigneur parmi eux. Alléluia. Mais Balaam, même s'il savait comment on devait s'approcher de Dieu et s'il pouvait faire venir une révélation de la part du Seigneur en étant spécialement revêtu de puissance, malgré tout cela, il était un évêque dans le groupe des faux. En effet, que fait-il alors pour gagner la faveur de Balak? il conçut un plan dans lequel Dieu serait forcé de traiter avec Israël par la mort. Tout comme Satan savait qu'il pouvait séduire Ève, la faire tomber dans les péchés de la chair, et donc amener Dieu à appliquer la sentence de mort qu'il avait prononcée contre les péchés, de même Balaam savait que s'il pouvait amener Israël à pécher, Dieu allait devoir traiter avec eux par la mort. Il conçut donc un plan pour les faire venir se joindre au péché. Il leur fit parvenir des invitations à venir à la fête de Baal-Péor, venez adorer avec nous. Et les gens d'Israël, comme ils avaient sans doute déjà vu la fête des Égyptiens, pensaient qu'ils n'avaient pas grand mal à y aller en spectateur, voire même à manger avec ces gens-là. De toute façon, il n'y a pas de mal à fraterniser, n'est-ce pas? Nous devons quand même les aimer. Non, sinon comment pourrons-nous les gagner? Les manifestations d'amitié n'ont jamais fait du mal à personne, du moins le pensait-il. Mais quand ces femmes de Moab, toutes sexy, se sont mises à tournoyer et à se dévêtir en dansant des rock'n'roll et les twists, la convoitise a surgi en eux et ces Israélites ont été entraînés dans l'adultère et 42 000 d'entre eux ont péri par la colère de Dieu. C'est là ce que Constantin et ses successeurs ont fait à Nicée et après Nicée. Ils ont invité le peuple de Dieu à venir à leur convention. Et quand l'assemblée s'est assise pour manger et s'est levée pour jouer, participer à des formes de culte, à des cérémonies et à des fêtes païennes auxquelles on avait donné le nom des rites chrétiens, elle était prise au piège. Elle avait commis la fornication et Dieu les a quittés. Chaque fois qu'un homme se détourne de la parole de Dieu et adhère à une église au lieu de recevoir le Saint-Esprit, cet homme-là meurt, mort. Voilà ce qu'il est. N'adhérez pas à une église, n'entrez pas dans l'organisation où vous serez accaparé par des credos, par des traditions ou par tout ce qui peut prendre la place de la parole et de l'Esprit. Sinon vous êtes mort, c'est fini. Vous êtes mort, éternellement séparé de Dieu. Et depuis, c'est ce qui s'est produit dans tous les âges. Dieu libère les gens, ils sortent par le sang, sanctifiés par la parole, ils passent par les eaux du baptême, ils sont remplis de l'esprit. Mais au bout d'un moment, leur premier amour se refroidit. Quelqu'un trouve qu'il devrait faire une organisation pour assurer leur avenir et se faire un nom. Et le voilà qui réforme une organisation, dès la deuxième génération et parfois même avant. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu, mais seulement une forme de culte. Ils sont morts, ils se sont hybridés avec les credos et les formes, et il n'y a plus de vie en eux. Balaam a donc réussi à faire commettre la fornication à Israël. Savez-vous que la fornication physique, c'est le même esprit qui se trouve dans la religion organisée? J'ai dit que l'esprit de fornication, c'est l'esprit d'organisation. Et tous ceux qui commettent la fornication auront leur place dans les temps de feu. Voilà ce que Dieu pense de l'organisation. Oui, messieurs. La prostituée et ses filles iront dans les temps de feu. Les dénominations ne sont pas de Dieu. Elles ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. C'est un mauvais esprit qui sépare le peuple de Dieu avec la hiérarchie d'un côté et les laïcs de l'autre. C'est donc un mauvais esprit qui sépare les gens les uns les autres. Voilà ce que font l'organisation et les dénominations. Par l'organisation, elles se séparent de la parole de Dieu et se mettent en état d'adultère spirituel. Maintenant, remarquez que Constantin a donné des fêtes spéciales aux gens. C'était des vieilles fêtes païennes auxquelles on avait donné de nouveaux noms tirés de l'Église, ou bien dans certains cas, on a pris des rites chrétiens qu'on a profanés par des cérémonies païennes. Il a pris les cultes du Dieu Soleil et l'a transformé en culte des fils de Dieu. Au lieu de le célébrer le 21 décembre, jour où l'on célébrait la fête du Dieu Soleil, ils l'ont repoussé au 25 décembre et l'ont appelé l'anniversaire du fils de Dieu. Mais nous savons qu'il est né en avril, au moment où la vie apparaît, pas en décembre. Ils ont pris la fête d'Astarté, ils l'ont appelée la fête des Pâques, où les chrétiens sont censés célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. En fait, c'était une fête païenne dédiée à Astarté. Ils ont mis des autels dans l'église, ils ont mis des statues, ils ont donné aux gens ce qu'ils ont appelé les credos, les symboles des apôtres, bien qu'on ne puisse pas trouver cela dans la Bible. Ils ont enseigné aux gens les cultes des ancêtres, faisant ainsi de l'église catholique romaine la plus grande église spirite au monde. Elle était le repère de tout oiseau impur, et les protestants sont là, avec leurs organisations, à faire la même chose. Ils mangeaient des choses sacrifiées aux idoles. Maintenant, Je ne dis pas que ceci veut dire qu'ils mangeaient littéralement des viandes sacrifiées aux idoles. En effet, même si le conseil de Jérusalem s'était prononcé contre cela, Paul n'en faisait pas grand cas, car il disait que les idoles ne sont rien. C'était simplement une question de conscience, sauf quand cela offensait un frère plus faible, auquel cas ce n'était pas autorisé. De plus, cette révélation de l'Apocalypse s'adresse aux gens des nations et aux non-juifs, puisqu'il s'agit d'église des nations. Je vois ceci du même point de vue que je vois les paroles du Seigneur. Si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que manger, en fait, c'est avoir part à, au sens spirituel. Ainsi, quand ces gens se prosternaient devant les statues, qu'ils allumaient des cierges, qu'ils célébraient des fêtes païennes, qu'ils confessaient leurs péchés à des hommes, toutes ces choses appartiennent à la religion du diable. Ils avaient part avec le diable et non avec le Seigneur. Ils étaient dans l'idolâtrie, qu'ils aient voulu l'admettre ou non. Ils ont beau dire que les autels et l'encens ne sont là que pour les rappeler des prières du Seigneur ou tout ce qu'ils peuvent penser que cela signifie. Ils ont beau dire que prier devant une statue, c'est seulement pour donner plus de poids à leur prière, que quand ils se confessent au prêtre, c'est en réalité à Dieu qu'ils se confessent dans leur cœur. Et quand ils disent que le prêtre leur pardonne, ils disent qu'il est fait simplement au nom du Seigneur. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais ils ont part à la religion bien connue de Babylone, cette religion satanique. Ils se sont attachés à des idoles et ont commis la fornication spirituelle qui signifie la mort. Ils sont morts. L'Église et l'État étaient donc mariés. L'Église s'était attachée aux idoles. Désormais, appuyée par la puissance de l'État, ils pensaient que maintenant le royaume était venu et la volonté de Dieu s'était imposée sur la terre. Rien d'étonnant à ce que l'Église catholique romaine ne s'attende pas au retour du Seigneur Jésus. Ils ne se sont pas millénaristes, ils ont leur millénium ici même. Le pape règne déjà et Dieu règne en lui. D'après eux donc, quand il viendra, ce sera quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront préparés. Mais ils se trompent, le pape est le chef de la fausse église. Il y aura un millénium, mais le pape ne sera pas là, il sera ailleurs. L'avertissement. Apocalypse chapitre 2 verset 16. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que peut-il dire d'autre? Dieu peut-il passer par-dessus le péché de ceux qui ont porté son nom en vain? Il n'y a qu'un seul moyen de recevoir la grâce à l'heure du péché, se repentir. Confessez que vous avez tort. Venez à Dieu pour recevoir le pardon et l'Esprit de Dieu. C'est un ordre que Dieu vous donne. Désobéir, c'est la mort, car il dit, « Je livrerai bataille contre vous avec l'épée de ma bouche. » La bête a livré bataille contre les saints, mais Dieu livrera bataille contre la bête. Ceux qui ont combattu la parole se retrouveront un jour combattus par la parole. C'est une chose grave que de retrancher ou d'ajouter à la parole de Dieu. Car ceux qui l'ont changé, qui en ont fait ce qui leur convenait, quelle autre fin auront-ils que la mort et la destruction? Mais la grâce de Dieu crie encore, « Repentez-vous. » Oh, comme la pensée, la repentance est douce. Je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix je vais rester. J'apporte ma tristesse. Je me réponds de ce que je suis et de ce que je fais. Maintenant, c'est le sang, rien d'autre que le sang de Jésus. C'est race la repentance ou bien l'épée de la mort. À vous de choisir. Les récompenses. Apocalypse chapitre 2 verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le message adressé à chaque âge contient un encouragement pour le croyant pour exhorter celui-ci à être victorieux et ainsi à être récompensé par le Seigneur. Dans cet âge, l'Esprit promet la manne cachée et un nom nouveau écrit dans un caillou blanc. Or, comme chacun de ce message est adressé à l'ange, au messager humain, ce dernier est le dépositaire d'une lourde responsabilité ainsi que d'un merveilleux privilège. Dieu fait des promesses spéciales à ses hommes, comme il a fait aux 12 apôtres assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et puis rappelez-vous que Paul a reçu une promesse spéciale, celle de présenter les gens de l'épouse de son époque à Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour présenter à Christ comme une vierge pure. Il en sera de même de tous les messagers qui auront été fidèles à la parole de leur heure et de leur âge. Il en sera de même au dernier jour. Ce sera la même récompense qui avait été réservée à Paul. Je pense que la plupart d'entre vous se rappellent que je disais que j'avais toujours eu peur de la mort, craignant de rencontrer le Seigneur alors qu'il serait fâché contre moi parce que je l'avais déçu tant de fois. Eh bien, j'étais en train de penser à cela. Un matin au lit, quand soudain j'ai été ravi dans une vision très étrange. Si je dis qu'elle était étrange, c'est que j'ai eu des milliers de visions, mais qui ne m'avaient jamais semblé quitter mon corps. Mais cette fois-là, j'ai été ravi. Je me suis retourné pour voir mon épouse et je vis mon corps allongé là, à côté d'elle. Ensuite, je me suis retrouvé en l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. C'était un paradis. Je voyais des foules de gens les plus heureux et les plus beaux que j'ai jamais vus. Ils avaient tous l'air si jeunes, dans les 18 à 21 ans. Ils n'avaient pas un seul cheveu gris, pas une seule ride, ni aucun défaut parmi eux. Les jeunes femmes avaient toutes les cheveux jusqu'à la taille, et les jeunes hommes étaient remarquablement beaux et forts. Oh, quel accueil ils m'ont réservé! Ils me prenaient dans leurs bras, ils m'appelaient leur cher frère, et ils ne cessaient de me dire combien ils étaient heureux de me revoir. Comme je me demandais qui étaient tous ces gens, quelqu'un à côté de moi me dit « Ce sont les tiens ». Saisi d'étonnement, j'ai demandé « Ces gens sont-ils tous de Branham ?» Il dit « Non, ce sont tes convertis ». Puis il me montra une dame et me dit « Tu vois cette jeune femme qui es-tu admirée il y a un instant ? Elle avait 90 ans quand tu l'as gagnée au Seigneur. » J'ai dit « Oh là là !» Et Dieu, que c'est de cela que j'avais peur. L'homme me dit « Nous nous reposons ici en entendant la venue du Seigneur. » J'ai répondu, « Je veux le voir. » Il dit, « Tu ne peux pas le voir pour l'instant, mais il vient bientôt. Et quand il viendra, c'est à toi qu'il viendra en premier, et tu seras jugé en fonction de l'évangile que tu as prêché, et nous serons tes sujets. » J'ai dit, « Tu veux dire que je suis responsable de tous ces gens ?» Il m'a répondu, « De chacun d'eux, tu es né chef. » Je lui ai demandé, « Est-ce que chacun sera responsable ? Saint Paul aussi ?» Il m'a répondu, il sera responsable pour son époque à lui. Eh bien, dis-je, j'ai prêché le même évangile que Paul. Et la foule s'écria, nous nous reposons là-dessus. Oui, je vois que Dieu va donner une récompense spéciale à ces messagers qui se seront fidèlement acquittés de la responsabilité qu'il a placée sur eux. S'ils ont reçu la révélation et la parole pour ces tâches-là, qu'ils l'ont fidèlement prêché à leur époque et qu'ils ont vécu ce qu'ils ont prêché, ils recevront une grande récompense. En gardant cette idée à l'esprit, considérez à nouveau ces versets. Je lui donnerai la manne cachée. Nous savons tous que la manne était de la nourriture d'ange. Elle était ce que Dieu faisait descendre sur l'herbe pour Israël à l'époque où ils étaient errants. C'était une nourriture parfaite. Il est surprenant de voir comment ces petits grains de nourriture les gardaient en parfaite santé. Personne n'est tombé malade. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Au moment de la construction de l'arche, ils ont mis un peu de cette manne. Ensuite, l'arche a été placée derrière le voile, et seul le souverain sacrificateur osait s'en approcher. Et à ce moment-là, il lui fallait avoir avec lui le sang du sacrifice. Le pain du ciel symbolisé par la manne, eut un jour descendu du ciel et a été fait vie pour tous ceux qui croient en lui. Il a dit, « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra pour toujours. » Quand il est parti, il nous a laissé sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole était le pain. Elle était la manne parfaite, et tout homme qui vit par elle ne mourra jamais. Mais une fois le Père disparu, personne ne semblait plus connaître la vérité exacte. Il semblait qu'en peu de temps cette manne avait été cachée aux gens. Mais dans chaque âge, Dieu a commencé à rétablir par révélation ce qui était caché, jusqu'à ce qu'en ces derniers jours, conformément à Apocalypse chapitre 10, verset 7, un prophète vienne révéler tout le mystère après quoi le Seigneur viendra. Donc, dans chaque âge, dis-je, les messagers ont reçu de la vérité cachée, mais ils ne l'ont pas seulement reçue pour eux-mêmes. C'est comme quand les disciples ont reçu la mission de servir de pain et de poisson à la foule. Jésus leur donnait la nourriture rompue, mais eux, à leur tour, la distribuer aux gens. Dieu donne sa manne cachée aux vainqueurs. Il ne peut pas en être autrement. Il n'ouvrira pas ses trésors à ceux qui reposent ce qui a été déjà révélé. Ce que je dis du messager de chaque âge, qui reçoit de Dieu une partie de la vérité originelle et de la parole, se trouve sous forme de type dans l'Ancien Testament. Alors que Moïse a reçu l'ordre de prélever 3 pinces et demi de manne et de le mettre dans un vase d'or derrière le voile du lieu très saint. Là, le souverain sacrificateur de chaque génération pouvait entrer avec le sang des sacrifices. Ensuite, il pouvait prendre une petite portion de cette manne, car elle ne se corrompait pas, qui faisait partie de la manne originelle, et la manger. Or, dans chaque âge, le messager du Seigneur pour cet âge recevrait la révélation de Dieu pour cette période donnée. Une fois le messager éclairé par la vérité, il apportait cette vérité aux gens, et ceux dont les oreilles avaient été ouvertes par l'Esprit entendaient cette vérité, la croyaient et la vivaient. Et puis, il y a aussi l'idée que nous aurons part à la manne cachée dans l'avenir. Je pense que ce sera d'avoir part éternellement à la révélation de Jésus-Christ dans les âges éternels à venir. Sans cela, comment pourrions-nous commencer à connaître les richesses insondables de son être? Tout ce que nous avons désiré savoir, toutes nos questions restées sans réponse, tout cela sera révélé. C'est le Christ qui est notre vie, que nous le recevrons. Oh, parfois, nous nous disons que nous découvrons un peu de lui et de sa parole ici-bas, et cela fait tellement de bien. Nous nous en réjouissons, mais un jour, quand notre chair sera transformée, cette parole et lui deviendront ceux dont nous n'aurons jamais même rêvé. Il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc, et que dans, et non sur, le caillou, il y aura un nom nouveau que celui qui le porte sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham. Saraï est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé les noms d'Abraham et de Saraï qu'ils ont été préparés à recevoir les fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre, et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans les livres de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il connaît ces noms, mais nous ne les connaissons pas. Un jour, selon son bon plaisir, nous aussi, nous les connaîtrons. Un caillou blanc. Comme c'est beau. Voici encore une image du saint qui reçoit de la main de Dieu une récompense pour les épreuves qu'il a endurées sur terre. Vous savez qu'après Constantin, la fausse église a pu puiser dans les trésors de l'État et ainsi bâtir de beaux édifices pleins de belles statues. Ces statues, sculptées en marbre blanc, étaient en réalité des idoles romaines qu'on avait renommées du nom des saints. Les églises et le mobilier qu'elles contenaient étaient d'une beauté exceptionnelle, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais Dieu n'était pas avec eux. Où était Dieu? Il était avec ses saints, dans une humble demeure, dans une caverne, dans un lieu sauvage dans la montagne, où il se cachait loin de membres de la fausse église. Il n'avait pas de beaux édifices, de chorales en habits de cérémonie, ni de beaux vêtements ou d'autres attractions mondaines. Mais maintenant, dans cette promesse spéciale que Dieu a donnée aux vrais croyants de tous les âges, Dieu a déclaré qu'il leur donnerait des récompenses d'une grande beauté et d'une durée éternelle. Que le riche regarde le pauvre de haut. Qu'il donne de grosses sommes d'argent à l'église pour qu'en son tour celle-ci honore les donateurs en disposant une plaque de marbre ou une statue en leur honneur à la vue du public pour que tous applaudissent. Un jour, le Dieu qui voit et qui sait tout fera de nouveau l'éloge de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Même si ce n'est que 2 petites pièces, il récompensera lui-même avec les trésors des cieux. Oui, la manne cachée et un nom nouveau dans un caillou blanc. Comme le Seigneur est bon de nous récompenser de façon si merveilleuse, nous qui sommes si indignes. Oh, je vais être prêt en tout temps à faire sa volonté et amasser des trésors dans les cieux.